et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Japon à Suzuka. Un Grand Prix, un week-end même marqué par la pluie et gagné par un type qui a quand même un nom d'eau minérale. On ne me le refusera pas. Pour m'accompagner ce soir, il va nous dire est-ce qu'il sait faire des petits bateaux en papier parce que c'était quand même très tendance ce week-end. Bonjour Dino.
Bonjour, excusez-moi, mais je vais devoir quitter cette émission. Je ne peux pas faire cette émission après un jeu de mots aussi pourri, Shiji. Tu n'as pas le droit.
Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un fait.
Bonjour, chers auditeurs. Et pour vous répondre, non, j'ai pas suffisamment poussé les études en aérodynamique pour pouvoir réussir un bateau trimaran avec des bouteilles de Badois.
C'était très tendance ce week-end. Déjà en 2004, ouais. Il l'avait fait. Et d'ailleurs, il y a une scène absolument géniale. C'était les essais libres 3.
Oui.
Il restait quoi? 8 minutes, et on entend la communication radio d'Heidfeld. Alors, faut dire que tout ce qui a été dit sur un ton très professionnel, hein, très sérieux. Et donc, l'ingénieur de course dit à Heidfeld, bon, il reste 8 minutes, tu as peut-être le temps de faire 3 tours. Bon, il est même pas sorti, mais bon, il dit, t'as le temps de faire 3 tours. Donc, Heidfeld lui dit, ouais, ok et tout. Et faut pas oublier que Heidfeld étant chez Sauber, il est en fin de grille, donc il est en haut. L'allée des stands est en pente à Suzuka, et donc il dit, oui, j'ai vu un bateau à papier, parce que pleuvait tellement.
Oui.
Et là, l'ingénieur de course lui répond, mais d'une façon très sérieuse, oui, c'est notre façon de faire passer des messages à Mercedes.
On va vous battre.
Je crois que voilà, le réalisateur a réagi exactement de la même façon que Dino, c'est pour ça qu'il nous a offert ce petit moment d'humour, ce petit moment léger.
J'étais un petit peu déçu parce que il y a Red Bull qui a fait des petits bateaux, il y a Mercedes qui a fait des petits bateaux. Moi, j'aurais aimé que, tu sais, tout le monde voit Red Bull en train de faire un beau bateau avec Red Bull.
Qu'il y ait une compète de petits bateaux.
Je serais les ingénieurs chez Ferrari, chez McLaren, je serais sorti les doigts du cul, quoi. Je sais pas. Mais bon, fallait. Je pense que le plus drôle, alors toi, t'as pas vu les qualifs, mais le plus drôle, ça a été pendant les qualifs, les pilotes de chez Virgin qui se sont mis devant le stand. À l'abri et qui ont joué au poker pour honorer leur sponsor qui était Tilt et donc ils ont joué au poker comme ça dans le stand. C'était franchement quelque chose de très très drôle.
Donc beaucoup de pluie le samedi, pas du tout le dimanche. On aurait peut-être aimé d'ailleurs un tout petit peu de pluie parce que c'était pas une course un peu comme l'an dernier avec des choses intéressantes mais sans non plus être extraordinaire, faut bien le dire. Une belle course qui avait lieu le 10 octobre.
Oh non, Seigneur, non! J'en ai marre vivement que la saison se termine. Je suis même presque Hamilton, soit champion, mais je veux que ça se termine.
Allez, plus que 3 courses.
Alléluia.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Donc, le dimanche 10 octobre, nous étions là, Saint-Ghislain, et je n'ai pas de blague.
Ah, ouf. Après Vettel, t'avais du mal, hein.
Voilà.
Ça avait pris toute ton énergie pour nous faire cette blague.
Et donc, des faits marquants du 10 octobre, nous allons remonter au 10 octobre 1793. C'est pendant la Révolution française. Le gouvernement est déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix, mais surtout c'est l'adoption du fameux calendrier révolutionnaire.
Ah oui, oh.
Et donc le 10 octobre, au passage, c'était le 19 Vendémiaire, le jour du tournesol. Oui, ils aimaient beaucoup les fleurs, la nature.
Voilà les héritages de la révolution, quoi.
Le 10 octobre 1913, c'est la fin du percement du canal de Panama, donc qui relie l'Atlantique et le Pacifique. Ça évite quand même un sacré détour. Le 10 octobre 1979, c'est une affaire politique. C'est le canard enchaîné qui dévoile que le président Giscard d'Estaing a reçu de l'empereur de Centrafrique, parce qu'il y avait Bokassa. Un empereur, Bokassa, les fameux diamants, hein, qui vont en partie lui coûter l'élection.
Oui, en partie.
Le 10 octobre 2005, c'est Angela Merkel qui devient chancelière d'Allemagne, et même la première chancelière d'Allemagne.
Ah.
Première femme à occuper ce poste. Les naissances du 10 octobre. Le 10 octobre 1813, c'est la naissance de Giuseppe Verdi.
Giuseppe. Shinji, pourquoi tu dis Giuseppe? C'est Giuseppe.
Le 10 octobre 1924, c'est la naissance d'Ed Wood, le fameux plus mauvais réalisateur au monde. Et le 10 octobre 1969, ça c'est une spéciale case dédiée pour Dino, c'est la naissance de Brett Favre.
Non, bizarrement, tu vois, ça me...
Je sais, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on parle d'un fou joueur de football américain.
Oui, voilà.
Ils nous ont quittés un 10 octobre, c'était en 1963. Edith Piaf.
Non, rien. Je me sentais obligé d'honorer ce petit moment musical de ma voix.
Une espèce de mélange entre Mario Cotillard et Yves Montand, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai, il y a un petit côté Yves Montand.
Le 10 octobre 1985, c'était le décès de deux monstres sacrés du cinéma. Yul Brynner,
ah oui,
fameux chauve.
Un cancer du poumon, je crois.
Ouais. Oui, qui avait fait d'ailleurs une vidéo avant sa mort, et qui en fait qui dit aux gens bah qu'il faut pas fumer et tout ça, et qui n'a été diffusé qu'après sa mort volontairement. Justement, ouais, pour dire aux gens, bah oui, la cigarette, ça tue, la preuve, je suis mort.
Voilà.
Et autre personne décédée le même jour, c'est Orson Welles. Immense Orson Welles. En 2004, c'était Superman qui nous quittait.
Keanu Reeves.
T'as du mal, toi, ce soir.
Ah,
Keanu Reeves. Mais non, c'est
Christopher
Reeves. Les célébrations du 10 octobre.
C'est la... encore un truc à la con.
Ah non, c'est la journée mondiale contre la peine de mort, quand même.
C'est un truc à la con.
C'est aussi
Non, je m'excuse, je n'ai rien dit.
C'est aussi la journée mondiale de la santé mentale. En France, c'est aussi la journée nationale des 10. Alors, 10 dans le sens dyslexie, dysphasie, dyspraxie.
D'accord.
Hein, avec analogie, donc 10-10.
Pas des numéros 10 comme Zidane.
Non. Et c'est le 10 octobre, cette année, attention, c'est très important, c'est que cette année, c'était le 42 Day, le jour du 42, en hommage à l'écrivain Douglas Adams. Alors, est-ce que j'ai besoin de te dire pourquoi et qui est Douglas Adams?
Bah, pour moi, non. Mais pour les auditeurs, je pense que c'est nécessaire de rappeler comment je m'en sors.
Donc, Douglas Adams est un auteur britannique très célèbre pour avoir écrit une trilogie en 5 volumes. Donc,
C'est pas Millennium, non?
Ah non, c'est pas. Non, c'est le guide du voyageur intergalactique, qui est un
script
de SF.
Mais je me suis endormi pendant le film.
Le film est pas bien, mais les bouquins sont très très bien. Donc, les guides du voyageur intergalactique, une trilogie en 5 volumes. Donc, c'est de la SF humoristique. C'est un chef-d'œuvre de ce genre.
Mais pas au cinéma.
Mais pas au cinéma. Et donc, faut savoir en fait que dans le premier livre, il est question de la question sur la vie, l'univers et tout le reste. Tu comprends la question ultime, enfin plutôt la réponse ultime au sens de la vie, à pourquoi sommes-nous là.
Dès le premier tome.
Oui, oui.
Il est bien fort, le mec.
Voilà. Donc, dans le livre... Donc, il y a une race extraterrestre qui construit un immense ordinateur, qui calcule la réponse pendant 7 millions d'années pour dire, la réponse est 42. Et l'ordinateur répond, et attends, l'ordinateur répond, le problème, c'est pas la réponse, c'est quelle est la question qui amène à 42. Et donc, c'est une des grandes thématiques de cette saga, c'est quelle est la question qui amène à dire que la grande réponse est 42. Et en fait, ce chiffre 42, c'est vraiment on pourrait dire un mème, une référence, c'est-à-dire que si vous trouvez dans des jeux vidéo, des livres, des bandes dessinées, le chiffre 42 quelque part, si c'est un peu geek, il y a de très fortes chances que ça soit en référence à ça.
C'est pas l'un des chiffres de Lost d'ailleurs, 42?
Oui, c'est le dernier chiffre. Et c'est sans doute pas anodin. Voilà, ça fait partie, voilà, c'est, dès que vous trouvez...
On ne saura jamais ce que veulent dire les chiffres de Lost. Ne cherchez pas!
Voilà. Si vous voyez le chiffre 42 quelque part, il y a sans doute une référence à Douglas Adams qui est pas très loin. Et alors, quel rapport avec le 10 octobre? Et là, c'est très geek. C'est que comment on peut écrire le 10 octobre, la date? On peut l'écrire 10-10-10. Et 10-10-10 en binaire, c'est 42. Il y a que des geeks hein, pour faire un truc pareil.
Ah ouais.
Je suis pas d'accord. Ce qui fait que le prochain 42 Day ne pourra avoir lieu que le 10 octobre 2110.
Voilà.
Et donc, en F1, le 10 octobre, je vais remonter au 10 octobre 1976, où avait lieu un Grand Prix des États-Unis. Mais attention, un Grand Prix des États-Unis Est. Justement, j'ai eu envie de revenir sur la folle histoire du Grand Prix des États-Unis, et c'est pour ça que, pour une fois, pour faire mon éphémérine, j'ai été obligé de faire un schéma.
Oui, mais ça, c'est très compliqué, cette histoire, quand même.
La grande saga des Grands Prix des États-Unis, un pays, quand même, qui a toujours eu une relation très particulière avec la F1, et pourtant, oui, qui a eu 40 000 Grands Prix sur son territoire.
Oui, à peu près.
Ah, puisque, suivant les années, donc, ça va de 0, quand il n'y en a pas, à 3, quand même. Il y a eu une saison où il y a eu 3 Grands Prix aux États-Unis.
La vache.
Et donc, on commence notre folle histoire du Grand Prix des États-Unis en 1950. Même si c'est pas le Grand Prix des États-Unis, c'est les 500 races d'Indianapolis pendant 10 ans. Donc,
ça compte quand même, c'est une petite épreuve. Mais quand même,
Oui, c'est vrai que c'est une épreuve mineure, mais qui compte quand même. Donc, pendant 10 ans, les 500 miles ont compté. Et déjà, on a un doublon à partir de 1959, où apparaît vraiment le Grand Prix des États-Unis. Pas n'importe où, parce que c'est quand même à Sebring, en 59. Puis en 60, à Riverside, un circuit en Californie. Donc, ce qui veut dire déjà qu'en 59 et 60, il y avait 2 Grands Prix.
Ouais.
En 61, donc, il n'y en a plus qu'un, puisque les 500 miles reprennent, entre guillemets, leur indépendance qu'ils avaient toujours eue. Et le Grand Prix des États-Unis déménage à Watkins Glen.
Ah.
Là encore, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est quand même des très belles pistes.
Oui.
Qui va rester, donc, le Grand Prix des États-Unis unique jusqu'en 1975. Et là, attention, mais c'est pas encore la séquence de Liprad. Attention. En 76, on passe à 2 Grands Prix. Qu'on va appeler États-Unis Est et États-Unis Ouest, même si en réalité ils ne se sont jamais appelés comme ça. Enfin, disons, si on regarde par exemple sur Stat F1, tu sais qu'il y a les programmes,
oui.
On voit bien sur les affiches qu'il n'est jamais fait mention de États-Unis Est et Ouest. Alors, États-Unis Est, en fait, c'est la suite, c'est le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen jusqu'en 1980. Et ce qu'on va appeler entre guillemets États-Unis Ouest, ça va être le Grand Prix de Long Beach. Donc, les deux coexistent jusqu'au 1980. Et là, attention, c'est là que commence la séquence de Liprad. On est en 80. Notez d'ailleurs quand même que depuis, enfin, on a commencé en 50, de 50 à 80, il y a toujours eu un Grand Prix aux États-Unis.
Au moins un.
Au moins un. En 81, il y a plus Grand Prix à Watkins Glen. Donc, dernière édition Watkins Glen, 80. L'appellation Grand Prix des États-Unis disparaît temporairement. C'est-à-dire qu'on va la retrouver, mais beaucoup plus tard. Donc, en 81, on a toujours Long Beach, qui est toujours là, qui marche plutôt bien, qui est peut-être même d'ailleurs un des plus beaux circuits urbains aux États-Unis.
Ah oui, oui.
Et donc en 80, il y a Long Beach, et en plus de Long Beach, il y a quand même cette merveilleuse idée, hein, c'est-à-dire que, on fait quand même des grands prix en Corée, on fait des grands prix en Chine, mais non. On fait aussi des grands prix de F1 sur des parkings.
Ah ouais.
Avec l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas sur le parking du César Palace.
Oui, merveilleux.
Ah, merveilleuse idée quand même. Donc en 81, 2 Grands Prix. En 82, on a la deuxième édition du Grand Prix de Las Vegas.
Et la dernière.
Et la dernière, exactement. On a une édition de Long Beach. Et là, quand même meilleure idée, on se dit, quitte à faire un Grand Prix de bagnole, autant le faire dans la ville de la bagnole.
Ah, Détroit.
Et arrive le Grand Prix de Détroit. Et donc en 1982... Il y a 3 Grands Prix, alors, qui ne s'enchaînent même pas, hein. C'est-à-dire qu'on en a un en tout début d'année, l'autre en toute fin, et l'autre au milieu.
Hein. Et là que maintenant, on vient nous faire chier en nous disant, ouais, ça serait bien de mieux organiser le calendrier.
En 83, donc plus de Las Vegas, Long Beach encore, et Détroit. En 84, toujours Détroit, et va y avoir en 84, un Grand Prix à Dallas, une tentative de Grand Prix à Dallas, qui sera célèbre notamment pour... Nigel Mansell qui tombe dans les pommes sur la ligne d'arrivée après avoir poussé sa Lotus qui venait d'avoir un pépin et donc il l'a poussé à la main pour passer la ligne et il faisait une chaleur pas possible et il tombait dans les pommes. Ça sera la seule édition d'ailleurs qu'il y aura à Dallas qui prouve que ça devait quand même être super bien organisé. Et donc en 85, il n'y a plus que le Grand Prix à Détroit mais qui prend pas le nom de Grand Prix des États-Unis, hein, c'est toujours Grand Prix de Détroit.
Ah d'accord.
Jusqu'en 88, en 89, on déménage à Phoenix qui là par contre prend le nom de Grand Prix des États-Unis. 3 ans à Phoenix, donc jusqu'en 91. Puis après 91, il y aura plus de Grand Prix des États-Unis, ni aux États-Unis.
Jusqu'en 2000.
Jusqu'en 2000. Et le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, de 2000 à 2007. Et là, on est de nouveau dans une période de disette, jusqu'à peut-être...
2012. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être.
Soyons prudents. Donc voilà, c'est l'histoire très compliquée du Grand Prix des États-Unis. Ils ont quand même organisé des tas de Grands Prix au final. On voit aussi quand même qu'il y a eu de très belles pistes. Hein. On parle de Sebring, Watkins Glen, Long Beach. En fait, c'est un peu merdé dans les années 80 où ils ont fait des trucs quand même un peu partout.
Comme par hasard au moment où Bernie Ecclestone arrive.
C'est dingue, hein.
C'est quand même bizarre.
Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride. On va passer à l'actu.
Et au JT du SAV.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du SAV datée du 12 octobre. Et tout de suite, on commence par le podium de l'actu.
Oui, le podium de l'actu, nous avons noté les trois plus grosses informations de la quinzaine.
Selon nous.
Oui, selon nous, hein, sur la plus petite marge du podium. Nous allons donc retrouver la bonne nouvelle de la semaine.
Oui,
ça y est,
la bonne nouvelle de ce matin, on peut le dire.
Nous irons bien en Corée dans 15 jours, enfin dans 10 jours, enfin dans quelques temps.
Oui.
Ce magnifique circuit qui, pour le moment, va nous faire envier Bahreïn, puisque
ah oui, oui,
quand on voit les photos du Grand Prix de Corée, c'est quand même quelque chose. Hein.
C'est pas le Grand Prix de Corée de la vidéo de Red Bull. Hein. Attention.
Non, voilà. Ça, c'est le Grand Prix de Corée dans 10 ans.
Voilà.
Et encore, faut compter les retards de chantier, donc partez sur 15 ans. Et donc, comme tu disais, circuit dont nous avons pu découvrir à la vidéo proposée par Red Bull, qu'il avait déjà fait pour Singapour, je
une
crois.
Une vidéo en HD.
Oui, avec une course entre les deux pilotes Red Bull, dans oui. laquelle personnellement j'ai vu quelques
tu as cherché quand même des trucs très très loin là.
Sur la fin, non mais quand même, comme par hasard, on a quand même Vettel qui fait une erreur alors qu'il est en tête, puis du coup Weber qui a beaucoup d'avance, puis sur la fin Vettel qui revient, et sur la ligne ils arrivent ex aequo, mais... C'est là où je vais peut-être le plus loin, c'est que quand même Weber, en fait, il a plus d'élan, donc peut-être qu'il au chronométrage, peut-être qu'il serait premier. Donc peut-être qu'inconsciemment dans la tête de Red Bull, il commence déjà indirectement à se faire à l'idée que Weber sera peut-être champion. Mais tout ça, c'est inconscient, bien évidemment chez Red Bull.
C'est la fin quand même d'une belle marotte quand même de cette saison. Hein.
Ouais.
Le Grand Prix Corée est pas fini, le Grand Prix Corée aura pas lieu. Eh ben si, il aura lieu.
Voilà.
Bon, il est pas fini, mais il aura lieu.
Voilà, quand même, hein. Donc voilà, ça c'était sur la plus petite marche du podium. Sur la deuxième marche du podium, Shinji, nous retrouvons
une grande équipe qui a fait le bonheur de beaucoup de fans dans les années 80. Une société, exactement. C'est Porsche. Porsche, oui. Dont on savait qu'il appartient au groupe Volkswagen. On sait que le groupe Volkswagen a montré un intérêt.
Hein. Qui peuvent tout aller en Formule 1, c'est pas le pire. Entre Audi, Volkswagen, Porsche, tout peut aller à la Formule 1.
Alors pourquoi Porsche et pourquoi pas Audi, pourquoi pas Seat, pourquoi pas Skoda? Non, je plaisante. Hein.
Non, c'est surtout que Skoda, moi je demande à voir.
C'est surtout qu'en fait Audi est déjà très bien installé en endurance, donc vu que l'équipe marche en endurance, autant la laisser là-bas. Par contre, c'est vrai que Porsche, qui a des voitures en endurance, a un rôle plus secondaire. Donc, dans une stratégie de groupe, hein, vous savez que c'est souvent maintenant comme ça que ça se joue au niveau des marques, ils se disent, après tout, Porsche, qui a une vraie légitimité en F1, et donc, Porsche a annoncé que, enfin, non pas annoncé, mais a laissé évoquer que s'il revenait en F1, ça serait avec une équipe Porsche. Alors, nouvelle structure, rachat d'une structure actuelle, tout est possible. Hein.
Mais à noter quand même que l'annonce avait donc été faite au Mondial de l'Auto, et que... Alors, c'est un peu bizarre, parce que ce que j'ai pu en ressortir, c'est que j'ai quand même l'impression que Porsche essaie de vendre ça comme, effectivement, bon, il y a déjà Audi en endurance, donc c'est soit Audi, soit nous qui allons venir en F1, autant se répartir chacun. Mais en même temps, on a quand même senti que ça contrariait un peu les plans de Volkswagen, qui, on le sait, a quand même des ambitions de venir en Formule 1, et on n'arrête pas de citer souvent le nom de Williams avec, et que, voilà, si Porsche vient en Formule 1, ça bloque un peu la route à Volkswagen.
Alors, attention, parce que, en plus, là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, faut pas oublier que si Porsche aujourd'hui fait partie du groupe Volkswagen, c'est dans des conditions extrêmement particulières. Puisqu'en fait, Porsche, qui a quand même longtemps été là, une des plus grosses capitalisations de l'automobile et même en Allemagne et dans le monde. En fait, à l'origine, c'est Porsche qui devait racheter Volkswagen et a racheté plusieurs parts. Et sauf que, ben, il y a eu la crise, la société s'est endettée et finalement, ben, Volkswagen qui devait être absorbé par Porsche, eh bien, s'est fait dévorer par Volkswagen. Ouais. Donc, on peut laisser, dans ce que tu dis, et par rapport à cette histoire de fusion, on peut tout à fait imaginer que même si aujourd'hui Porsche fait partie du groupe, c'est quand même une fusion, voilà, qui est dans une circonstance un peu spéciale. Hein.
Mais c'est justement ça qui est... C'est là où on sent peut-être que l'annonce, finalement, bien que déguisée derrière une stratégie de groupe, finalement, et peut-être aussi de la part de Porsche, une déclaration, une volonté, peut-être pas d'indépendance, mais en tout cas de dire « nous, on va faire ça et on se fout de savoir les intentions de Volkswagen ».
Et sinon, il y a une autre rumeur de retour. J'ai envie de dire une équipe dont on se doute que de toute façon, un jour, elle reviendra. Donc, c'est la rumeur d'un journaliste anglais, c'est ça sur Twitter. Hein.
Oui, sur Twitter, qui a donc annoncé qu'avec la réglementation, la proposition de réglementation moteur de la FIA pour 2013, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la FIA et la FOTA...
Ce qui prouve quand même que cette idée marche, parce qu'on voit Porsche, Volkswagen, Honda qui pourraient revenir.
Mais c'est peut-être pas non plus anodin. Le fait de le mettre en pâture, c'est peut-être aussi, dans le cadre de négociations, on le sait, qui ont eu lieu ce week-end et qui sont un petit peu tendues, puisque les équipes semblent plutôt attachées au V8, contrairement à ce qu'on avait laissé entendre il y a quelques semaines, où seul Ferrari était dans l'opposition au bloc biturbo.
Le problème, c'est que les équipes ont découvert la facture. C'est ça, le problème.
Et donc, il semblerait que plusieurs équipes soient contre, et que c'est peut-être pas anodin d'entendre parler de plusieurs constructeurs, et donc de ce constructeur qui a été annoncé sur le Twitter d'un journaliste anglais, qui a dit qu'un Twitter, un constructeur japonais, avait l'intention de revenir en Formule 1 si la réglementation du moteur biturbo revenait, et que ce constructeur donnait un petit indice, commençait par H et finissait par Honda. Donc, on vous laisse deviner, vous avez le choix, il n'y a pas beaucoup de constructeurs japonais aussi.
Tu noteras d'ailleurs, on parle de Porsche, on parle de Honda, c'est intéressant de voir en plus, voilà, de retour de turbo, on voit du Porsche.
Affaire à suivre,
bien évidemment. Et donc, on passe à la première place de notre podium, avec et une nouvelle incroyable.
Première place, il n'y avait personne d'autre pour occuper cette première place que l'illustre Sergio Pérez. Mais plus que Sergio Pérez.
Rendez-vous compte, l'an prochain, Sauber aura une livrée.
Oui, une vraie
livrée qui sera sans doute crème avec du bleu.
Pas une mauvaise photocopie.
Et beaucoup d'annonces autour de Sauber. Donc, en effet, l'arrivée de ce sponsor qui sera sans doute un sponsor titre même. Hein.
On parle d'un contrat de 2 ans et de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros quand même pour une écurie de la taille de Sauber, ça a tout l'air d'être en tout cas un très gros sponsor.
Un sponsor qui ne vient pas tout seul.
Non, qui vient donc avec son pilote.
Avec son pilote.
Voilà, son pilote. Ah, j'avais trouvé une expression ça pour ça, c'est son pilote. Les pilotes papier cadeau, c'est avec les moteurs. C'est les pilotes sandwich.
Voilà.
Hein, avec son pilote sandwich, Sergio Pérez,
deuxième du GP2.
Oui, qui a signé, je crois, 4 ou 5 victoires pour l'écurie Barrois d'Ax, je crois.
Et donc encore une
qui
fois.
Pas été mauvais. Et on le sait d'ailleurs, ça s'est joué entre les deux premiers du classement, puisque Maldonado, qui était soutenu notamment par un grand pétrolier vénézuélien, enfin, l'État vénézuélien, ouais. Contrôle le pétrole au Venezuela, donc c'était l'État vénézuélien, était soutenu, mais finalement, même Maldonado a dit, il y en a qui sont plus riches que moi, donc. Mais attention, tu disais que peut-être que tel mec serait le sponsor titre, peut-être que les performances du petit japonais vont amener de gros sponsors.
Alors,
japonais.
Peut-être pas un sponsor titre, mais en effet, ça date d'aujourd'hui même, on parle peut-être de l'arrivée de Panasonic chez Sauber. Alors, c'est vrai que Panasonic, très longtemps, bon, à vrai dire, tout le temps de la vie de l'équipe a été associé à Toyota.
Oui.
Qu'ils ont quitté un peu la F1 contre leur gré, puisqu'ils avaient signé un contrat avec Toyota jusqu'en 2012. Et donc, le temps un peu de se remettre en ordre, il se pourrait que dès l'an prochain, Panasonic pourrait revenir en F1 naturellement dans l'équipe de Kobayashi et donc chez Sauber. Ce qui veut donc dire qu'entre Telmex et Panasonic, ça va quand même être le grand changement chez Sauber par rapport à cette année. Hein.
Certain. Et donc voilà, c'était notre podium de l'actu. On va peut-être passer à la rubrique suivante de ce JT, Shinji.
Car sur les podiums, il y a des hommes.
Voilà, c'est vrai. La F1 est avant tout une histoire d'hommes.
D'hommes. Et donc, on va passer aux hommes de l'actu.
Voilà. Et nous allons chacun rendre hommage à un homme qui a fait l'actu. Mm. Je te propose de commencer, Shinji, pour te faire plaisir.
Ça va surprendre énormément de monde, hein. Mais mon homme de l'actu sera celui qui aurait pu devenir une abeille l'an prochain, mais qui ne le sera pas. Hein. Qui va continuer à rouler en Red Bull. Oui, parce qu'il roule finalement plus en Red Bull qu'en Citroën. Avons-le. C'est Kimi Raikkonen qui a finalement mis le point final absolu à la rumeur, de façon même assez virulente, ce qui est un peu étonnant de sa part.
Il a poussé une sorte de coup de gueule, ouais.
Oui, parce que il a quasiment accusé, il a accusé Renault
de faire sa pub,
sur son image.
Ce qui l'a mis à deux doigts d'un drive-through de ma part. Parce que, comme s'est défendu Boulier dans une interview, il dit oui, enfin en même temps, quand les journaux parlent d'un grand pilote comme ça chez nous, bien évidemment, on est obligé de réagir. Mais... on n'a pas fait des caisses, on a répondu aux questions, et ça, Kimi Raikkonen, chaque jour, on nous posait des questions sur lui, et chaque jour, on y répond.
Je trouve justement que, peut-être pas qu'ils ont peut-être pas voulu se servir de lui, ou bien l'hypothèse aussi qu'on disait, c'était en fait, ils parlaient de Raikkonen, surtout pour mettre la pression sur Petrov. Mais faut avouer, je trouve que Renault, et surtout Boulay, ont beaucoup parlé de Raikkonen. Je veux dire, habituellement, non, mais habituellement, quand il y a une rumeur de sponsor, de transfert, en règle générale, tu sais très bien comment ça marche. C'est-à-dire que tu as des rumeurs à 50, 60, 80, 90, 99%, et en règle générale, les équipes, elles te disent quoi? Elles te disent, oui, non, mais bien sûr, on parle avec lui, mais on parle avec plein d'autres. En règle générale, les équipes, tant que c'est pas signé, c'est motus sur les pilotes.
Ouais. Non, mais, ouais, quand non, même, mais, on parle de Kimi Räikkönen, les journalistes sont à l'affût.
Non, mais même quand, je te dis, hein, même quand c'est de la rumeur à 99%, là, c'est vrai que Renault a beaucoup parlé de Räikkönen, sans forcément, d'ailleurs, voulu, enfin, en effet, hein, ce que dit Boulier se tient, je pense qu'ils
sont moi, je pense qu'ils ont eu un, la rumeur est venue, et je pense qu'ils ont, ils ont joué aussi avec, avec la rumeur, mais je pense que, n'importe quelle écurie qui se serait mis dans la rumeur avec Räikkönen, on aurait parlé, bien évidemment.
Mais disons que je pense que s'ils en avaient moins parlé, Kimi serait peut-être, ne se serait peut-être pas énervé, c'est tout. Voilà, c'était mon...
Non mais c'est un peu comme comparer, là y a, on regarde en même temps un match de foot, c'est un peu si on compare les 6 derniers mois de l'ère Domenech. Domenech, il va en avoir ras-le-bol parce que une question sur deux, c'était sur Laurent Blanc, quoi. Et après, quand Laurent Blanc a été nommé sélectionneur, une question sur deux, c'était sur Domenech. Voilà, c'est... Il y a aussi, je pense, aussi cette relation avec les médias, et je pense que Renault en a joué aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même eu, il reconnaît la lui-même, il y a quand même eu un contact des Robertson.
C'est vrai.
Mais je pense que les premiers qu'ils devraient engueuler, c'est pas Renault, ni les journalistes, c'est les Robertson, qui eux ne pensent qu'à une seule chose, c'est leur 20%.
Hein. Oui. Donc voilà, c'était mon homme de l'actu. Quel est ton homme de l'actu?
Et moi, mon homme de l'actu, alors, c'est un homme. C'est rarement des
connais,
femmes.
Hein. Enfin, non, mais je te connais, hein.
Mon homme de l'actu, c'est Paul Di Resta. Et j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de te demander, c'est un petit jeu comme ça, Shinji. Est-ce que tu sais pourquoi Paul Di Resta, pour moi, a fait l'actu durant la dernière quinzaine?
C'est lié à Force India.
Pas du tout.
C'est lié à Top
pas
Gear?
Pas du tout.
C'est lié au Tokyo Game Show?
Pas du tout.
C'est lié à la Formule 1, au moins?
Pas du tout.
J'en étais sûr. Est-ce que ça a lié, c'est un lien, pardon? Avec l'automobile, au moins.
Ça a un lien avec l'automobile.
Bon. Il y est allé au mondial de l'auto?
Non.
En même temps, il est pas le seul.
Contrairement à Kupitsa, Sébastien Loeb, qui d'autre y est allé, Ah, mais en plus, je l'ai vu. Ah, Yvan Muller.
Nous.
Nous. D'ailleurs, coucou, je suis contre l'auto.
Il est pas allé au salon?
Non. Je te dirais même, c'est l'homme de l'actu, mais ça a quasiment aucun rapport avec lui.
Il est passé à la télé?
Non. Donc c'est lié au sport automobile, mais pas à la Formule 1.
Au rallye? Il a fait du rallye?
Non.
Il a décidé de faire de la NASCAR?
Non. Mais on se rapproche.
Ah, donc c'est aux États-Unis?
Oui.
Il a suivi l'IndyCar?
Il a pas suivi l'IndyCar, mais il a sans doute dû suivre la dernière course d'IndyCar. Et il avait une bonne raison de la suivre.
Donc c'est, bah, la dernière course d'IndyCar, c'était la dernière course de la saison? Où le titre s'est joué? C'était à Miami? Non, comme d'habitude? Oui. Ouais.
Et qui a eu le titre, Shinji, rappelle-nous?
C'est pas l'écossais au nom d'italien, là?
Oui, Dario Franchitti.
Dario Franchitti, oui. Enfin, qui l'a eu, enfin, pas facilement, mais bon, il l'a eu sur abandon de son adversaire.
Oui, voilà.
Donc c'est pas lié à Wipo.
Je te parle de Paul Di Resta, et c'est lié, au sacre de Franchitti. C'est lié au sacre de Franchitti, je peux te le dire. Paul Di Resta, Franchitti, Paul Di Resta, Franchitti. J'attends que la lumière divine s'allume sur Shinji.
Bah, ils ont des noms un peu d'origine italienne, mais...
Ah, ils ont des noms un peu d'origine italienne. C'est intéressant, on s'approche.
Mais en plus, ils sont pas italiens.
Ils sont pas italiens, ils sont...
Bah, Franchitti est écossais, et Di Resta aussi est écossais.
Oui. D'accord. Ce sont donc deux écossais italiens.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux en déduire de ça, Shinji?
Qu'ils aiment la pizza et le haggis?
Non.
Qui font partie du même clan.
Pas loin. Généralement, on appelle pas ça un clan.
Ils sont de la même famille.
Ils sont de la même famille. Ils sont cousins.
Ils sont cousins.
Voilà, je voulais en faire mon homme de l'actu parce que voilà, j'avais appris cette information et je voulais la communiquer avec vous. Voilà.
Donc, on a commencé par le podium. Sur le podium, il y a des hommes. Et des hommes, ça parle.
Oui.
Et donc, comme ça parle, ça fait des citations. C'est quand même d'une logique absolue. Hein.
Cette rubrique est vraiment bien faite. Bah, je te propose, comme tu as commencé le dernier, je vais commencer avec cette citation. Une citation très intéressante de Christian Horner qui a déclaré « À la fin de la journée, Deux personnes de la taille de Ross Brawn ont été attachées à chaque extrémité de l'aileron avant, et c'est passé. Donc, une petite pique, ma foi, fort sympathique à l'égard de Ross Brawn, qui a, ce week-end, remis une couche sur les ailerons flexibles, puisque certaines vidéos auraient démontré la flexibilité retrouvée de l'aileron avant des Red Bull. On se rappelle que la première fois, ça avait été McLaren qui avait lancé l'affaire, et là, il se trouve que c'est Ross Brawn qui a ravivé l'affaire, et donc, en réponse, Horner a donné cette petite phrase qui, moi, m'a vraiment beaucoup fait rire. Et toi, Shinji, quelle est ta citation
On va rester dans le côté Mercedes, avec quand même cette magnifique phrase, pour ceux qui peut-être en rêvaient. Ce serait plus crédible de dire que Norbert Hawk sera un pilote de F1 que d'affirmer que Michael Schumacher sera le directeur sportif de Mercedes.
Mais qui a bien pu dire ça?
Eh bien, c'est Norbert Hawk lui-même.
Voilà.
Pour moi, lui, c'est quand même le mieux au courant.
Donc, mais la question, c'est est-ce que Norbert Hawk ferait mieux que Schumacher au volant de la Mercedes?
Est-ce que déjà peut-il rentrer dans les F1? C'est ça le problème. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette rumeur disant que peut-être Schumacher, voyant quand même que son retour n'est pas une franche réussite, pourrait se tourner vers la direction d'équipe. Chose qu'on avait même déjà évoquée, souviens-toi, quand il était parti à la retraite pour Ferrari. Et donc, Norbert Hawk dit non. C'est pas la peine d'y penser, c'est pas probable.
Oui, bon, honnêtement, même, enfin, Schumacher, c'est pas le genre d'homme. Comme chez Ferrari, un rôle de conseiller maintenant d'être le responsable.
Et puis, est-ce qu'un grand pilote de F1 fait forcément un grand directeur d'écurie? On n'a pas forcément beaucoup d'exemples de grandes réussites. Hein.
C'est pas sûr. Il y a de grands exemples. Hein, Prost. Bah, voilà. Prost, il avait peut-être le potentiel pour être un très grand directeur. Malheureusement, il est tombé dans des circonstances politiques et dans un projet qui a mis en doute sa crédibilité. Et aujourd'hui, Prost, pour revenir, ça serait extrêmement difficile.
On peut parler de Graham Hill, de John Surtees, qui n'ont pas eu vraiment de chance. Puis le cas contraire, on peut parler de Brabham quand même, Bruce McLaren, même si elle a éclos vraiment après sa mort, faut bien le dire.
Ouais.
Voilà, tu as quelque chose à rajouter dans ce journal, dans ces actus? Pas de question à la con sur le TGR.
Ah, moi je veux bien passer à la question actu si tu veux.
Ah, moi je suis toujours partant pour une question à l'actu. Ah, c'est bah, sur le TGS?
Non, j'ai fait un effort. Ah,
c'est bon, t'as le droit.
Le service à présent de la F1 vous présente la question actu qui est passée inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Et donc, cette question actu, Shinji, comme tu le sais d'habitude, est très difficile et j'espère qu'elle le sera encore cette semaine. J'ai envie de te demander, Shinji, qui a célébré ce week-end son 40e anniversaire après plus de 10 000 tours parcourus?
Donc, 40e anniversaire, ça veut dire né en 1970. C'est quelqu'un?
Oui. Non.
Donc, c'est quelque chose.
C'est quelque chose. Je peux même te donner la date de naissance précise, c'est le 19 avril 1970.
C'est une équipe?
Non, ce n'est pas une équipe.
C'est une marque?
Non, c'est pas vraiment une marque.
Ça n'est pas une voiture particulière?
Non.
Tu as dit qu'elle avait parcouru 10 000, 20 000 tours?
10 000 tours.
Des tours de circuit?
Oui.
Qu'est-ce qui parcourt les circuits mais qui n'est pas une voiture ni une... C'est... Les retransmissions télé?
Non.
10 000 tours, c'est l'ensemble des tours depuis 40 ans, je suppose.
Alors, 10 000 tours? Non, c'est pas l'ensemble des tours depuis 40 ans. Alors, 10 000 tours, une petite idée de ce que représente 10 000 tours. Dans sa carrière, j'ai fait le calcul, dans sa carrière en Formule 1, Alain Prost a parcouru en Formule 1 en course un peu plus de 10 000 tours.
D'accord.
Ouais, 10 045 tours.
Et c'est pas en continu, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrêts, ça a repris. Ou vraiment, c'est 10 000 tours.
Je te répète ma question. Qui a célébré son 40e anniversaire ce week-end après plus de 10 000 tours parcourus?
C'est quand même pas le circuit de Suzuka?
Non.
C'est un circuit?
Ah oui.
D'accord. 70, en octobre. Montréal?
Non.
Est-ce qu'au moins c'est un circuit de F1?
Oui, il y a eu des F1 dessus.
Il y a eu. Donc, il n'y a plus.
Il y a eu et il y en a encore parfois.
Il y en a encore parfois.
Mais ce n'est plus un circuit qui est au calendrier. Quoique, il a été question à un moment donné que...
Le Paul Ricard?
Eh oui, j'ai dit, c'était j'ai 40 ans.
Je l'imaginais plus vieux, le Paul Ricard. C'est pour
non,
ça.
Non, en fait, il est, mais disons qu'il est rapidement rentré en Formule 1. Donc effectivement, ce week-end, fut organisée la première édition des 10 000 tours du Castellet, le circuit du Paul Ricard, qui fut donc l'occasion de célébrer les 40 ans de ce circuit mythique du Var, pour ça que par exemple Enzo, s'il nous écoute, devait être depuis 10 minutes en disant ouais c'est passé, tu dis. En compagnie, donc ça a été célébré en compagnie de grands noms de la course automobile française: Beltoise, Pescarolo, Prost, Larousse, et Jabouille. Alors les 10 000 tours, hein, c'est une nouvelle manifestation historique, un nouveau week-end de compétition centré autour de 5 catégories et qui a pour vocation en 2011 de s'exporter aussi dans d'autres grands prix, donc de faire un vrai calendrier des 10 000 tours avec 10 000 tours du Castellet et pourquoi pas revenir sur des vieux circuits comme Zolder, Lavus, pourquoi pas ce genre de choses. Alors, le circuit du Paul Ricard a été inauguré le 19 juillet 1970. Mmh. Il est le projet de
Paul Ricard.
De Paul Ricard, hein, la fameuse boisson anisée.
Tu sais qu'avec la loi Evin, il y a eu des menaces sur le nom, alors que même si c'est le même nom, c'est la même personne, il y a pas de, enfin c'est pas le circuit de la société Paul Ricard, c'est Monsieur Paul Ricard qui a construit le circuit.
Alors, il faut quand même signaler que Paul Ricard possédait un terrain. Le circuit est construit sur le Castellet, mais Paul Ricard est plus connu à Signes, qui est d'ailleurs le nom d'un des virages du Paul Ricard, Signes dont il est devenu maire en 1973. Alors, le circuit va rapidement s'imposer comme l'excellence en matière de sécurité à l'époque, et en 1971, il accueille la Formule 1 pour la première fois, en alternance d'abord avec le Grand Prix de France qui est organisé à Charade, à Clermont-Ferrand, puis en alternance avec Dijon-Prénois, jusqu'en 1985, année où il est devenu finalement le seul circuit à accueillir le Grand Prix de France. En 91, on le sait, devenu vieillissant et confronté à la vague sécuritaire du moment après plusieurs incidents, il va laisser sa place au très moderne circuit construit avec la volonté de François Mitterrand, Nevers-Manicourt, et il va continuer dans les années 90 à perdre de sa superbe, accueillant jusqu'en 99 le Boulder, hein, l'épreuve mythique de moto, les 24 heures moto mythiques, malheureusement épreuve qui va elle aussi partir pour Manicourt en 99. Le circuit va être racheté et modernisé par un certain Bernie Ecclestone et il va longtemps servir de piste d'essai, notamment pour ses qualités en termes de piste. Il y a, je crois,
avec son figuration. Avec entre guillemets son nouveau, enfin pas son nouveau nom, mais son petit nom là, HTTT.
Et donc c'est vrai qu'il a beaucoup servi dans les années 90 pour faire des tests. Peugeot par exemple, il a fait des tests récemment pour l'endurance. On se rappelle les tests de Toyota. On a aussi fait, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, d'autres tests sur ce circuit. Et ce n'est finalement que très récemment, avec la construction d'une tribune pouvant accueillir 5000 personnes, qu'il s'est remis à la compétition. Il a accueilli cette année, je crois, un meeting du championnat endurance GT2 et devrait à l'avenir un peu plus renforcer son calendrier avec plus de courses, notamment des courses historiques. Alors j'avais un petit peu envie de me prendre pour Shinji ce soir, un mélange de Shinji et d'Enzo, me prendre pour vous deux et de faire un petit peu d'histoire et de revenir sur les étapes marquantes qui ont fait de ce circuit du Castellet, ce circuit Paul Ricard, un circuit mythique en France, oui. En à peine 20 ans d'existence en Formule 1. Donc, Shinji, premier Grand Prix en 1971, avec une victoire assez attendue d'un pilote qui domine l'époque.
71, Stewart.
Voilà, un pilote qui n'est pas le cousin de Di Resta, mais qui est écossais, c'est Jackie Stewart. Jackie Stewart qui va être le premier d'un doublé Tyrrell Ford, puisque le français François Sever va terminer deuxième. Et c'est même plus qu'un doublé Tyrrell, puisque c'est un triplé Ford avec la voiture de Fittipaldi qui se classe troisième. Alors j'ai plus la marque de, enfin le constructeur de
McLaren peut-être.
Peut-être. Mmh. Et donc ça va faire un triplé Ford sur un circuit qui est plutôt favorable à Ford, dont la puissance moteur est légendaire, qui sera plus tard très favorable au moteur turbo, oui, grâce à cette ligne droite de 1 km 800, la ligne droite du Mistral. Donc voilà, ça c'est pour 71. On va sauter, 72, le Grand Prix se déroule donc à Clermont-Ferrand. En 73, on revient pour la deuxième édition, avec une première victoire pour un pilote. Un pilote qui malheureusement nous a quitté en course. Il s'est tué au Grand Prix de Monza.
C'est pas suédois?
Oui.
Ronnie Peterson?
Tout à fait, c'est Ronnie Peterson qui signe donc au Castellet sa première victoire en 73 pour l'écurie Lotus. Il signera une deuxième victoire au Grand Prix de France la saison suivante, mais ça n'est plus sur le Castellet. Il va faire des résultats en demi-teinte les saisons suivantes au Castellet, et en 78 par contre il va renouer un petit peu avec sa lettre de noblesse en signant une deuxième place pour son qui sera son dernier Grand Prix au Castellet. Donc nous passons en 75, là je vais pas m'attarder, c'est une victoire de Niki Lauda. Assez facile de mémoire, qui s'impose avec la grippe, donc ça vient
quand même.
On va passer les épreuves de 76 qui étaient remportées par Hunt, je crois, de 78 dont j'ai complètement oublié le vainqueur, je suis désolé, pour s'arrêter sur l'édition 1980 remportée par...
Ça pourrait être en 80...
Bon, c'est fort
c'est
logique.
En français
hein. Non, quand on connaît le déroulement de la saison, c'est fort logique.
Ah, ça va être une Williams?
Oui.
Jones?
Oui, c'est une victoire d'Alan Jones. Mais surtout, il faut noter que c'est le dernier Grand Prix de l'écurie Shadow, à qui, justement, Alan Jones avait offert sa seule et unique victoire au championnat du monde, lors du Grand Prix d'Autriche 1977, avant de quitter l'écurie Williams avant de quitter l'écurie Shadow pour aller chez Williams en 78. Et dans la foulée, il y avait aussi un groupe de membres du staff technique qui était parti fonder l'écurie Arrows. Et donc ça a été le début du déclin de cette écurie Shadow qui s'est donc éteinte sur deux non-qualifications au Grand Prix de France au Castellet que l'on n'a plus jamais revu en Formule 1.
En plus, c'était pas le Grand Prix de France, c'était au milieu de saison.
Oui. Mmh. Bah, ça a toujours été aux environs du 1er juillet, en fait.
Ah oui. Donc, en plus, c'est même pas en fin de saison, c'est au moins lâché en cours.
Alors, toujours en vertu de l'alternance, pas de Grand Prix au Castellet en 81, mais retour de la F1 au Castellet en 82 pour sans doute l'un des épisodes les plus légendaires du circuit du Paul Ricard en Formule 1.
Alors, 82, c'est les moteurs turbo, ça.
Oui.
Alors, c'est qui? 82, c'est du Brabant ou du Renault?
C'est du Renault.
C'est du Renault. Alors, c'est tant. C'est lequel?
C'est d'ailleurs un doublé Renault.
Ah, donc c'est Prost.
Mais un doublé qui a fait polémique. C'est Prost avec...
C'est pas Arnoux?
Oui, c'est le fameux épisode Prost-Arnoux qui, dans l'histoire, restera comme la trahison d'Arnoux envers Prost, même si Prost va s'en expliquer un peu plus tard. Effectivement, il y avait eu des consignes d'équipe comme quoi Prost devait finir premier. Arnoux a refusé de laisser passer Prost dans les derniers tours, alors qu'on lui tendait un panneau indiquant Prost premier, Arnoux deuxième, alors que lui-même menait la course. Donc on lui intimait l'ordre de laisser passer Prost, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il connaissait une série de résultats assez... était dans une spirale assez négative et c'était son premier résultat positif depuis pas mal de temps. Donc il a gagné cette course et... Prost a tiré une tronche de 6 pieds de long et a clairement parlé de la situation juste après. Et d'ailleurs, plutôt que d'aller plus loin dans le détail, j'ai envie de vous laisser parler Prost et de prendre un extrait d'un livre qu'a écrit Prost en collaboration avec Jean-Louis Moncey, Jean-Louis Malbranque. Oh, le monstre à deux têtes. Donc, un livre sorti en 88 qui s'appelle Maître de son destin. Donc, l'extrait est assez long, mais il résume assez bien la situation et il donne aussi un petit peu le point de vue d'Alain Prost, qui disait donc, à l'époque, l'équipe Renault connaissait des problèmes internes, dont le plus visible fut celui de ma brouille avec René Arnoux. Elle se passa au Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Cette affaire me fut souvent reprochée, j'y tenais le rôle du méchant, et si je n'ai pas toujours été populaire en France, c'est en grande partie à cause d'elle, et donc à cause de ma franchise. Nous partions en première ligne, René et moi, et Gérard Larousse avait demandé à René de me laisser passer en tête au moment de l'arrivée, si nos voitures étaient devant, car j'étais le mieux placé au classement du championnat du monde. Je m'empresse de souligner que je n'avais rien demandé, ni à l'un ni à l'autre, pour la bonne et simple raison que, si j'avais été à la place de René, j'aurais personnellement refusé. Mais René n'osa pas dire non à Gérard, et il accepta les consignes de Larousse avant le départ. Une fois le départ donné, il prit la tête et je le suivais sans forcer l'allure pour économiser ma voiture. Bref, j'appliquais le plan fixé à la lettre. Si j'avais su que René, au fond de lui-même, avait décidé de ne pas respecter les consignes, si seulement il m'avait prévenu, je ne l'aurais pas laissé prendre 20 secondes d'avance. Mais au moment où on lui passa le panneau indiquant Prost premier et Arnoux deuxième, il refusa d'obtempérer et je n'eus pas le temps de le rattraper. À la lumière de l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux dire que c'était folie de la part de Gérard Larousse que d'avoir imaginé un tel plan, que c'était méconnaître la qualité première d'un pilote de course que de l'avoir exigé. Mais le mal était fait et sur le moment je me suis senti floué. Et comme j'ai la franchise abrupte, j'ai exprimé ma colère dès la ligne d'arrivée franchie. Arnoux n'avait pas respecté les consignes et la course avait été faussée. Il me paraissait naturel de le faire remarquer, mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. En quittant le circuit, j'eus droit à un gag supplémentaire, rajoute-t-il. Le pompiste, chez lequel je m'étais arrêté pour faire le plein et rentrer à Saint-Chamond, me prit pour Arnoux et me dit « Vous avez bien fait, monsieur Arnoux. Ce Prost, c'est vraiment un petit con. On dirait que tout lui est dû. » Aujourd'hui, René et moi avons effacé le passé par estime mutuelle et par lien de camaraderie. De plus, cette histoire que toutes les mauvaises langues montèrent en épingle ne fut qu'une simple péripétie car la saison 82 nous réserva des épisodes autrement plus dramatiques. Avec effectivement la mort de Gilles Villeneuve, l'accident de Pironi, je crois. Donc voilà, ça c'était pour l'année 82 qui avait été effectivement un moment de gloire pour Renault en France, mais en même temps une sombre histoire avec des consignes qui n'avaient pas été respectées. On va se faire un saut à la retour vers le futur en 86, avec pour le coup un événement dramatique qui n'a aucun rapport avec le Grand Prix, mais qui aura des conséquences sur le Grand Prix, puisque le 15 mai, alors qu'il effectue des tests pour le compte de Brabham entre deux Grands Prix, l'aileron arrière de la BT-55 d'Elio De Angelis lâche et l'Italien sort violemment de la piste. Il mourra quelques heures plus tard à Marseille, des inhalations de fumée suite à l'accident, alors qu'il n'a pas eu, semble-t-il, après examen, de blessures mortelles, mais il est mort d'intoxication. Les organisateurs du Grand Prix de France, qui doit se tenir quelques mois plus tard, décident de modifier le tracé du circuit pour le rendre moins rapide et le sécuriser, et vont donc le raccourcir. Finit donc le premier virage, une sorte de chicane très rapide, de Verrières, où justement était sorti Elio De Angelis, alors que la fameuse ligne droite du Mistral perdait un bon tiers de sa distance. Autre conséquence également, un peu plus historique, cet accident va donner du grain à moudre à Balestre, le président de la FISA, qui est déjà bien décidé à mettre un terme aux moteurs turbo qui sont très coûteux et qui ont un petit peu fait s'étouffer les petites équipes sous la pression des gros constructeurs, qui va œuvrer et donc encourager la limitation des moteurs turbo en 87 et 88 et leur interdiction pure et simple en 1989 suite effectivement à cet accident d'Elio De Angelis en 86. Donc voilà, une étape indirectement, le Castellet a peut-être joué une étape marquante. Même si on sait que pour Balestre, c'était aussi un biais politique que les moteurs turbo. On n'ira pas forcément dans le futur, puisqu'on va passer directement en 87, où on va assister à une course à rebondissement remportée par Nigel Mansell devant Nelson Piquet, l'un des principaux animateurs de la course, puisque je crois qu'il fait un tête-à-queue, que à la fin de la course, il a 20 secondes de retard sur Mansell, mais qu'il gagne 2 secondes au tour, et devant Prost et Senna. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est la 6e place du français Philippe Streiff. C'était synonyme du trophée Jim Clark. Alors que tu sais, Sylvie, ce que c'est que le trophée Jim Clark?
Donc il a été attribué à Philippe Streiff.
Il était attribué à Philippe Streiff. En fait, il était attribué au premier des pilotes de son genre.
Est-ce que c'était pour les, ce qu'on appellerait les rookies?
Non.
Non.
Et c'est vraiment un trophée qui, semble-t-il, n'a existé que cette année-là, qu'en 87. Même s'il aurait pu exister en 88.
C'est lié au moteur turbo, justement?
C'est lié au moteur turbo, et c'est même plutôt l'inverse des moteurs turbo.
C'est le meilleur moteur atmosphérique.
Voilà, c'est le meilleur moteur atmosphérique. Donc on avait créé le trophée Jim Clark. C'était un vrai classement qui récompensait à la fin de saison le meilleur pilote en moteur atmosphérique. Et il y avait le trophée Colin Chapman pour la meilleure écurie à moteur atmosphérique. Alors il se trouve que le meilleur pilote, ça a été Jonathan Palmer, qui était le coéquipier de Streiff dans l'écurie Tyrrell Ford. Et Tyrrell, justement, qui a été lauréate du trophée Colin Chapman. Alors, ça aurait été assez amusant de faire ce genre de trophée en 2010, vu l'écart qu'il y a avec les équipes traditionnelles et les trois nouvelles écuries. Et je me suis demandé quel nom on aurait pu leur donner. Et je me suis dit, s'il y a bien une équipe qui symbolise les petites équipes dans l'histoire de la F1, c'est Minardi.
Ah bah ouais, j'ai pensé la même chose.
On aurait pu attribuer le trophée Giancarlo Minardi, récompensant la meilleure des petites écuries, donc actuellement Lotus, et attribuer le trophée pour le meilleur des pilotes des petites écuries, lui donner le nom de Pierluigi Martini, qui a effectué 102 grands prix pour le compte de Minardi, et a quand même empoché la bagatelle de 16 points dans cette écurie. Donc voilà, c'est un peu cette anecdote sur l'histoire de cette saison 87 avec ces deux classements différents. Alors, en 88, il y a bien eu un Grand Prix sur le Castellet, remporté par Alain Prost, mais il n'y a rien de particulier à signaler. Bon, passons aux deux dernières éditions, celle de 89, avec un débutant qui fera ses débuts au Castellet, de façon plutôt magistrale, le 9 juillet. Shinji, peux-tu me dire le nom de ce débutant?
C'est pas Jean Alési?
Eh ben c'est Jean Alési, tout à fait, qui va faire ses débuts chez Tyrell, en remplacement de Michele Boreto. Et alors, Jean Alési va commencer très fort parce que dès les premiers essais, Tyrell va avoir débarqué dans le stand Berger et Mansell, excédés par le comportement, enfin le pilotage du pilote avignonnais, qui va d'ailleurs se qualifier en 16e position sur la grille de départ, qui va éviter un très gros crash qui a eu lieu au départ avec Maurizio Guglielmin. Il va y avoir un deuxième départ et doucement, mais sûrement, il va remonter place après place, allant jusqu'à occuper la deuxième place à la faveur des ravitaillements. Et il va terminer la course en reculant deux places, en terminant quatrième, mine de rien, pour un débutant.
C'est vachement bien pour un débutant.
Performance qui renouvellera un peu plus tard dans la saison, rentrant deux fois dans les points en Italie et en Espagne. Et donc on va finir avec la dernière édition du Grand Prix de France au Castellet en 90. Édition, comme il se doit, célébrée par une victoire française, celle de Prost, qui signe sa 5e victoire au Grand Prix de France, la 4e sur le circuit du Castellet, et la 3e consécutive, avant de s'imposer en 93 une 6e fois, cette fois-ci sur le circuit de Magny-Cours. Mmh. Accessoirement, ce Grand Prix de France 1990 marqua la 100e victoire d'une Ferrari en Formule 1.
Oh.
Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette course, c'est la performance des Leighton House, d'Ivan Capelli et de Maurizio Guglielmin, qui ne s'étaient même pas qualifiés au Grand Prix du Mexique quelques semaines avant, mais qui avaient, on peut le dire, dominé la course au Grand Prix de France, en menant, après les ravitaillements des leaders, en menant la course pendant près de 40 tours, jusqu'à ce que Prost dépasse les deux pilotes l'un après l'autre, et surtout qu'il dépasse Ivan Capelli, alors en tête, à 3 tours de la fin. Ivan Capelli qui a fini en 2e position, ça reste malgré tout la meilleure performance de l'écurie qui en était à sa première saison et qui allait nous quitter fin 91.
Une voiture designée par...
Oh je sais plus, ça j'ai dit.
C'est pas Adrian Newey justement, Leighton House?
Ah oui voilà, oui c'est Adrian Newey, tout à fait. Je pensais à la livrée.
Ah non.
Non voilà, donc c'était un peu pour rendre hommage à ce grand circuit français.
Ouais.
Qui voilà, malheureusement on peut pas faire rond les essarts, j'essaierai. Mais voilà, donc c'était un petit peu long, mais voilà, je trouvais ça sympa de revenir un peu sur ce circuit et aussi donc d'encourager cette initiative des 10 000 tours qui est assez intéressante. Il y a possiblement 10 000 tours de fait dans le week-end avec 5 catégories, 200 participants. Il y a véritablement de quoi faire 10 000 tours. À savoir que j'ai calculé le nombre de tours qui avaient été parcourus en F1 en course sur le circuit du Castellet.
Waouh.
Et il y en a eu plus de 16 000.
Ah oui, quand même.
Tout pilote confondu.
On passe à la course.
Oh yes.
Et on passe à ces qualifs donc, qui n'ont pas eu lieu samedi matin.
Faut quand même saluer tous les courageux qui se sont levés à 3h du matin pour regarder les qualifs.
Et je me suis levé, tu sais.
Ah ben moi je me suis même pas levé, moi je me suis dit tu ne travailleras jamais, tu te couches directement à 4h et tu travailles à 8h.
J'ai mis le réveil à 3h, enfin juste avant 4h, j'ai regardé les qualifs et la première chose que j'ai fait ensuite c'est me recoucher.
Ah ouais. Ça nous a rappelé le bon vieux temps de l'Australie quoi, à l'époque où l'Australie la course était à 4h du matin.
Ouais.
Moi ça me manquait, j'étais content de me lever pour voir ces qualifs quoi.
Et donc notre traditionnelle place du con, j'ai envie de dire, c'est un classique cette semaine hein. Ouais. Puisque c'est une Toro Rosso.
Quoique, un pilote Virgin pourrait l'avoir, cette place du con. Il la mériterait pleinement.
Ouais, mais c'est pas en qualif. Donc, Sébastien Buemi qui a fini 18e. Mais quand même à un peu plus d'une seconde et demie devant Lotus.
Oui.
Qui pourtant ont bien progressé. Mais pas...
Oui, c'est vrai. Mais même si elles sont plus développées, c'est ça le truc. C'est que les Lotus, à l'année, ne sont plus développées. Mais quand même... Si on a oublié de dire dans les news, mais Lotus aura des boîtes et de l'hydraulique, je crois, Red Bull.
Ouais.
Mais du Red Bull de 2009.
Ah oui, donc.
Plus fiable, moins révolutionnaire.
Voilà.
Et comme il y avait pas de fond plat de prévu, donc ils ont pas besoin d'une boîte super petite.
Oh, ça va,
super...
hein, du Red Bull de 2009, tu vas pas cracher dessus.
C'est pas de la merde.
Voilà.
Ce qui tend à laisser penser qu'il y aura bien un moteur Renault, même si c'est pas encore officiel.
Ouais. Et c'est une équipe qui devrait quand même bien progresser, rien que... Je veux dire, avec un moteur et une boîte Red Bull,
Il y a déjà une bonne base, quand même.
Voilà.
Maintenant, faut que Gacecoin, qui a été reprolongé, je crois, jusqu'en 2013 ou 2015, faut que Gacecoin nous fasse une bonne voiture, pas un cube.
Et donc, en première ligne.
Encore.
Ça faisait...
Ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps. La 13e pole position pour Sébastien Vettel, la 18e pour Red Bull, la 173e pour Renault. À une moyenne.
Pas tout à fait le record.
À une moyenne de 230,272 km/h, Sébastien Vettel, en 1:37,785, devant son coéquipier, ils ont été les seuls à passer sous la barre des 1:31.
Ouais.
Un Marc Webber en 1:30,853. Et faut quand même noter, un, la très bonne perf de Kubica, 1:31,231, troisième place. Alonso, qui aurait préféré être troisième, voire à la limite cinquième, mais qui est quatrième. Et on peut noter aussi Hamilton, 8.
Qui était originellement troisième.
Voilà,
mais déclassé
voilà.
pour
changement de boîte.
Son petit frottage de mur en essai libre.
Il y a d'abord eu Degner. Il y a eu le déclassement pour changement de boîte. Une boîte qui a extrêmement bien marché ce week-end.
Oui. Et qu'il risque d'ailleurs de rechanger dans 15 jours. Surtout qu'il y en aura besoin là-bas, donc
À noter aussi la cinquième place de Button, qui déjà laissait sous-entendre qu'il allait faire un, qu'il allait tenter un truc, puisqu'il a fait son temps en pneu dur.
En pneu dur.
Non, sinon, pas grand chose d'autre à dire sur la qualité. Tu veux rajouter? Non?
Non, j'ai pas de grand... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que je sais que j'ai bien aimé la qualif, mais j'ai pas de grands souvenirs. En plus, il y avait pas vraiment beaucoup de suspense.
Ah, puis, ça aurait dû être un petit peu plus humide, ça. Ça aurait été mieux. Enfin, ça aurait été... Il y aurait eu plus de trucs.
Ouais, mais en même temps, l'an dernier, ça avait été un peu humide et ça avait duré 1h30, quoi. Donc, enfin, même pas 2h50, je sais plus. C'était très long.
Et donc, on va passer à la course. On va passer au classement.
Un classement un peu fou.
Oui. Avec une question. À quel niveau a-t-il été mis, lui? Et là, vous qui nous écoutez, vous savez tous qui est lui.
C'est cet homme qu'on a tout le temps vu.
Donc, ont été cités sans être classés. Et vois-tu, il n'y a qu'une seule personne, enfin, qu'un seul pilote.
Oh non. Oh non. J'ai peur, pourvu que ce soit lui qui a été cité.
Cité mais non classé, c'est Sébastien Buemi.
Ah, ça va. Non, attends, c'est-à-dire que le mien que j'ai mis à la con, il est dedans. Non, me dis pas ça, c'est pour des
conneries. Ah, mais non, mais lui aussi, je vais venir après.
Ah, d'accord.
Je viens après, s'il te plaît. Chaque chose en son temps. J'ai un tableau, je lis dans la liste. Donc, il y a la liste, et puis il y a le tien qui est juste en dessous.
On vous spoil, chers auditeurs, je suis désolé. Hein? Je vais me faire peur, là.
Cette semaine, j'ai eu la belle grille avec tous les noms de pilotes, et j'ai un truc en dessous, on va dire. Donc, un pilote qui a participé à la course, lui.
Ah non, t'en dis trop, là, j'ai dit. Ah non, le mien, il a participé à la course, je suis désolé.
Sébastien Buemi a donc été classé 9e par les auditeurs. Classement des auditeurs où il y a beaucoup d'ex-échos. Il y en a 3, donc en fait 6.
Oui.
Voilà.
Bah c'est pour ça qu'ils rentrent tous, alors.
Voilà. Il y a un peu de ça. Donc Buemi, voilà, 9e.
On a Fab007 qui l'a mis 9e et qui nous dit « Il place sa Toro Rosso dans les points sur un circuit qu'il apprécie. » Alors que Sato Kamikaze l'a aussi mis 9e en nous disant « Dans les points avec sa Toro Rosso, pas mal. » Steph Core et Maël nous l'ont mis 10e sans donner plus de commentaires. D'ailleurs, Steph Core nous a dit qu'il ne mettrait pas de commentaires puisqu'il n'avait rien à dire sur les autres pilotes, sauf sur le premier qu'il a mis dans son classement.
D'accord. Bon,
là, il y a des choses à dire.
Oui.
Mais on vous spoile pas.
Et donc a été cité. Hein. J'ai eu la surprise de le voir dans ce joli tableau Excel. Voilà, il était là. Et donc, classé 10e ex aequo, Bardino. Non.
Il a pas de points, j'espère.
Non, il a pas de points. De toute façon, même si tu lui avais mis 10, il n'aurait pas eu de points.
Ah non, il aurait pas rentré dans le classement.
Il est hors classement. C'est donc ce pilote qui a quand même l'honneur d'être souvent leader de la course, sans être dans la course. C'est lui qui a quand même l'honneur de piloter une Mercedes SLS.
Oui.
C'est Bernd Mehlander. Alors ouais. J'ai envie de dire pourquoi.
Alors je tiens à dire que je l'ai mis ex aequo avec un autre pilote à la 10e place.
Oui.
Pour vraiment pas faire polémique. Mais en fait, moi il m'a fait plaisir parce que on l'a vu au moment de la safety car dans les S prendre. Enfin, il y avait une certaine avance et se faire plaisir à chercher la trajectoire et tout. Et je me suis dit voilà un mec, il a l'occasion de sortir à Suzuka. et il s'est fait plaisir. Et il nous a fait, honnêtement, il fallait regarder cette trajectoire, c'était quand même très sympa. Pour un pilote qui est un vrai pilote, hein. Bernie Sanders, oui. C'est un vrai pilote.
Et il faut un vrai pilote pour piloter ce genre de... Parce que, faut pas oublier que eux, ils vont lentement, les F1. Mais lui, oui. Il va à fond. Parce qu'il faut qu'il aille à fond pour que les voitures...
Quand tu ne fais pas lentement, ta voiture est à fond.
Voilà, quoi, hein. Voilà. Lui, il va à 180 et les fins sont à 140, enfin à 180 voilà. Aussi, mais lentement.
Mais c'était vraiment très sympa, quoi. Justement aussi, c'est ça le paradoxe de ce mec qui est en pleine vitesse, quoi, qui est à fond, qui fait la course tout seul, avec les autres qui sont en train de chauffer leurs pneus derrière en faisant des zigzags. Ça a été une image de la course que j'ai beaucoup aimé.
Et donc on passe au classement avec des ex-echo, donc ils sont deux à un point.
Vous chers auditeurs.
J'ai envie de dire, il y en a un, c'est presque honteux qu'il soit là, et l'autre, c'est presque dégueulasse qu'il ait qu'un point. Leur point commun, c'est la lettre K.
Ah bah Kubica.
Et
Kylin, Kimi. La lettre K. Attends, je suis con, j'ai la liste des pilotes devant moi. Kovalainen.
Et Kovalainen. Donc, on peut parler de Kubica, puisque de toute façon, sa course a été extrêmement longue. Et c'est pour ça que je disais, c'est presque honteux quand même qu'il ait un point. Parce que quand même, hein, si on prend le ratio point-distance parcouru, il est extrêmement bénéficiaire cette semaine.
Mais moi, je l'avoue, je l'ai mis parce que il a fait une belle qualif.
C'est moi aussi, hein, c'est pour ça. Hein.
Et puis, il fait un bon départ. Voilà. Après, malheureusement, le sort a fait que il pouvait pas avoir plus de points. Et
avec ce mystère, oui. Pourquoi la roue est-elle partie?
C'est une habitude chez Renault de perdre des roues. Mais d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant parce que entre lui qui perd une roue, entre Rosberg qui perd une... Enfin non, c'est Rosberg, c'est la suspension qui casse. Il y a quand même beaucoup d'histoires de roues dans le Grand Prix.
Et puis Renault, quand même, grand Grand Prix que le Grand Prix de Renault.
Oui, bah oui, très long.
Ah oui, Petrov qui se prend 5 places de pénalité en Corée.
Oui.
En même temps, il se rabat quand même un peu vite hein, sur Hülkenberg.
Disons qu'il nous a fait un départ à la PlayStation, quoi. C'est-à-dire que c'est ce genre de départ. Toi, quand tu fais la PlayStation, généralement, ça passe.
T'en fous, tu risques pas ta vie.
Enfin, voilà, ça passe pas, quoi.
Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a il y a Rosberg qui met un peu le bazar dans le peloton parce qu'il fait un mauvais départ. Maintenant, oui, en même temps, faut être aussi un peu prudent. C'est ce que je disais sur Hamilton il y a 15 jours. Il ne faut pas penser que le dépassement, il est fait quand il n'est pas fait. Bah faut non. Aussi attendre un peu et te donner une marge de sécurité.
Puis là, bon, en plus, c'est arrivé en plein départ. C'est pas étonnant qu'il y ait une pénalité, quoi.
Voilà.
Dans un autre moment de la course, il n'aurait peut-être pas eu de pénalité. Là, quand même, c'est dangereux ce qu'il a fait. Donc, j'y reviens. Kovalainen, quand même, il mérite quand même bien ce point. Puisqu'il a quand même fait le meilleur résultat pour la Lotus, 12e place. Alors bien sûr,
ça n'avait pas déjà été fait une 12e place, ça.
Non, le record c'est 13. Et en fait, 13. Ils ont fait 12 et 13 cette semaine.
Bien.
Donc meilleur résultat pour la Lotus cette année quand même.
Ouais.
Alors bien sûr, hein, il y a eu pas mal d'abandons, ça aide.
Ah mais faut rester jusqu'au bout.
Mais voilà, faut rester jusqu'au bout.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces pilotes? Bah déjà on peut parler de Kubica,
oui.
Qui a été mis 9e par Mael. Et alors ce qui est étonnant, c'est que même Steve Kerr ne l'a pas mis dans son classement.
Eh non.
Vous allez voir d'ailleurs dans ces classements, ce qui est rigolo, c'est que les fans des pilotes sont pas forcément ceux qui les ont le mieux placés.
Non, c'est vrai.
Et nous avons Globen qui l'a mis 8e en disant dommage pour son abandon, indépendant de lui, il était bien parti. Quant à Kovalainen. Alors Kovalainen, il a été mis par tout le monde, sauf Mael, et à chaque fois il a été mis 10e. Par Globen, 10e, il finit 12e, ce qui n'est pas mal pour une Lotus. Dans F1 2010, il aurait rempli ses objectifs en course. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Fab007, qui nous l'a mis également 10e. 12e, c'est le meilleur résultat, pour le moment, d'une petite écurie cette saison. Il a mérité une place dans le classement. Sato Kamikaze qui le met donc 10e. J'ai hésité avec Alguersuari qui avait frôlé les points, mais je trouve que c'est suffisamment sympa de voir une Lotus à la 12e place pour mettre Kovalainen dans mon top 10, même s'il y a eu beaucoup d'abandons.
Notez que donc tous les deux, on a mis Kubica 10e et Kovalainen 9e. Et voilà. En plus, pendant la course, on a eu, bon, pas pendant toute la course, mais une petite baston entre une HRT, une Lotus, il y en avait une 3e. C'était sympa de voir un peu de compète.
On a vu, ouais, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça a été souligné, je crois, dans les commentaires par Fab, je crois, qui avait souligné la réalisation, qui s'était pas mal intéressé à tous les pilotes, il disait qu'il y avait peut-être eu un petit peu de japonite aiguë et de schumacherite aiguë, mais on a quand même vu les Lotus, on a vu les Virgin, enfin la Virgin restante, on a vu quand même pas mal de choses pendant ce Grand Prix.
Oui, et puis japonite aiguë, cette semaine, c'était un peu plus difficile.
C'était mérité, voilà.
On passe à la 9e place. Et là, je suis presque énervé, parce que tu nous as quand même balancé un speech la semaine dernière, en nous disant, j'en ai marre, on le voit jamais, faut pas lui mettre de points, il y en a marre qu'on lui dise, ah, parce qu'il fait des choses à la Rosberg, hein. Et qui c'est qui met une 7e place à Rosberg? C'est pas moi, c'est pas les auditeurs.
Sinon... Ouais, non, mais t'es pas gentil, parce que les auditeurs, ils l'ont quand même mis Rosberg, hein.
Oui, ils l'ont mis, mais...
Je ne suis pas seul. Hein, puisque... Ah non, même pas. Je suis le seul qui a avoir mis Rosberg.
Eh oui.
Donc, c'est vrai que je vous ai fait un speech. Là, pour le coup, il a montré des choses quand même. Voilà, alors que c'était mal parti. Bon, il a foiré son départ. Mais quand même, à la régulière, bah, il a devancé Schumacher, qui fait une très bonne course, Schumacher.
Oui.
En même temps, j'avoue, j'ai pas été super passionné par la course, en dehors certaines choses. Et donc, j'ai... peu ou prou respecter le classement de la course.
À la 8e place, un pilote de chez Sauber, mais ce n'est pas celui lequel vous pensez.
Suspense.
C'est Nick Heidfeld, alors qui pour sa 2e course, enfin, en fait c'est plus que sa 2e course avec cette structure, mais qui nous rappelle qu'il peut être bon quand même parfois.
Bah disons que dès que t'as plus Schumacher dans tes pattes, ça devient plus facile quoi.
Oui, donc Heidfeld... que j'ai mis aussi 8e, que les auditeurs ont mis 8e, par contre tu ne l'as pas cité, Dino.
Non, je sais, je suis plein de paradoxes aujourd'hui.
Et qu'ont dit les auditeurs d'Heidfeld?
Alors, il a été le mieux placé par Sato Kamikaze, qui nous l'a placé 6e, et qui nous dit pour la 2e course de son retour, il s'en sort très bien, il n'est pas aussi spectaculaire que Kobayashi, c'est clair, mais je trouve qu'il
il n'a jamais été.
Sans erreur. Oui, non,
c'est pas son style.
Même déjà face à Kubica, et c'était pas lui forcément le plus impressionnant.
T'imagines une course Rosberg-Heidfeld.
Oh l'horreur.
On verrait jamais les voitures, on verrait le décor.
Et Sato Kamikaze qui finit en disant « Il mérite ce top 8 qui permet à Sauber de placer ses deux bagnoles dans les points. » On a Fab007 qui l'a placé 8e, tout comme Steph Kerr et Maël qui n'ont pas laissé de commentaires. Et donc Fab nous dit un très bon Grand Prix, sans doute une façon de dire à Peter Sauber qu'il aurait été un bon élément pour 2011.
Oui, parce que finalement il n'y sera pas.
Non.
On passe à la 7e place avec notre 7e champion du monde qui fait presque une petite place par rapport à la bonne course qu'il fait, hein, puisque alors moi-même je l'ai mis 7e, Dino tu l'as mis 8e, les autres l'ont quand même mis 5e.
Ouais. Alors avec la meilleure place c'est Fab007 qui le met directement sur le podium en 3e position. Il m'a fait plaisir au niveau de son pilotage, il est le premier des autres, bravo. Mais surtout il a réussi une prouesse que personne n'a pu réaliser avant lui. Permettre à Rosberg d'avoir plus de 20 secondes d'exposition télé pendant un Grand Prix. Et c'est vrai que c'est pour remercier Schumacher. On a Sato Kamikaze qui l'a mis 5e. Il s'est enfin montré plus rapide que Rosberg sur un circuit où il en faut dans le pantalon. Il n'a fini que 6e, mais il est quand même le meilleur des non-prétendants au titre. On a Globen qui l'a mis 5e en disant « Enfin, enfin une course convaincante ». Steph Kerr qui l'a mis 7e et Maël qui l'a mis également 7e.
Oh ouais, belle course. Comme on aurait aimé voir Schumacher toute l'année, en fait.
Oui, même si honnêtement, je reconnais, j'ai quasiment aucun souvenir de sa course. J'ai juste le souvenir d'un Schumacher qui s'est écarté pour, je sais plus laisser passer qui.
Écoute, c'est déjà exceptionnel qu'il s'écarte pour laisser passer.
Oui.
Ça change.
Mais bon, encore une fois, quand même largué en qualif par rapport à son coéquipier. Voilà, vivement 2011. Quand même.
Ça va peut-être marcher beaucoup mieux. Il y en a beaucoup qui ont craché, mais qui sait, peut-être que l'an prochain, en effet, ça ira beaucoup mieux.
Mais moi, je pense, personnellement, que là, sur cette fin de saison, je vais pas dire qu'il a levé le pied, mais que, voilà, il met pas forcément tout l'investissement qui serait nécessaire et qu'il est focalisé sur 2011. Et je m'attends à ce que le duel, Rosberg-Schumacher en 2011 soit quand même un peu plus saignant que ce qu'il a été cette année. Enfin, quoi que cette année, il a été très saignant, hein, c'est un massacre, en faveur de Rosberg.
Bon, à la 6e place, encore un moteur Mercedes, mais cette fois-ci sur une McLaren.
Ça fait mal au cœur.
Mais pourquoi tu veux vomir? Bon, d'accord, il a eu des pépins de boîte, d'accord, il s'est repris le mur à Degner.
Ah ouais, c'est bon. Ah. Excusez ce cri du cœur.
Donc, vous l'aurez compris, c'est Lewis Hamilton que j'ai mis 6e, comme dit
Dino. Qui s'est abonné à la chaîne Warm Magazine.
Ah oui, là, il les accumule, là.
Et donc, les auditeurs, ils l'ont mis combien?
sixième aussi.
Alors, d'ailleurs, Steph Core l'a mis sixième, Maël l'a mis quatrième, Fav007 l'a mis sixième en nous disant à Singapour, j'avais dit que la chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Visiblement, elle ne sourit pas toujours non plus aux attaquants. On a Globen qui le met septième. Je laisse Steph Core faire le commentaire. Manque de bol, Steph Core n'a rien eu à dire. Et enfin, on a Sato Kamikaze qui l'a mis huitième. Désolé de le mettre si bas, mais avec sa course à la Rosberg. Je suis pas d'accord.
Course à la Rosberg, non, il y a eu ce problème de boîte.
Moi, c'est vrai que j'avoue, honnêtement, je l'ai mis bas parce que, voilà, il a fait des erreurs, il est sorti, il a perdu du temps, mais quand même, il fait une performance en qualif qui est tout à fait remarquable, avec sans avoir fait d'essai quasiment, il sort quand même un troisième temps, ce qui est magnifique. Et en course, bah, là encore une fois, il s'est fait prendre au piège de trop vouloir attaquer, mais quand même, il a fait une course, je trouve très 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 bonne. Agressif à souhait, peut-être trop, mais agressif à souhait. Et non, moi j'ai trouvé honnêtement très performant.
Finalement, c'est bien sa boîte qui a posé souci. Ça ne sont pas les freins.
Bah, on l'a entendu en direct.
Après, mathématiquement, ils sont encore dans la course. Ils peuvent encore rattraper théoriquement.
Oui, voilà.
On est bien d'accord. Théoriquement, tout peut encore se passer. Il reste trois courses quand même. On est encore loin entre guillemets de la fin de la saison.
Le problème, c'est maintenant, c'est que Red Bull est en ordre de marche.
Voilà, Red Bull est en ordre de marche.
Si on regarde.
Et puis, il y a, j'en avais déjà parlé, il y a ce momentum. C'est-à-dire que là, quand même, il vient d'accumuler 4 courses à la suite où il s'est foiré. Et bon, là, il finit. C'est déjà un énorme progrès. Mais le problème, c'est qu'il finit derrière. Et là, les points, ça commence à s'accumuler et il est au-delà de cette fameuse barrière des 25 points. Ça va être très, très compliqué pour lui et pour McLaren. Ils ne sont plus maîtres de leur destin.
Bah non, parce qu'il faut que, il faudrait que les trois pilotes de devant aient un problème.
Voilà.
Et c'est une équation qui est surtout que, on parle souvent, j'ai encore entendu la phrase ce week-end de Moncey, je crois, qui parlait de la fiabilité des Red Bull. Honnêtement, si on fait le bilan Red Bull cette saison, la fiabilité de Red Bull a peu été prise à défaut. Enfin, en tout cas, pas
en début
autant
de
que
saison,
ce qu'on espérait.
Mais après,
En début de saison, le dernier gros incident, c'est à Monza, c'est le problème de boîte, je crois. Enfin, je sais plus quel, ouais, le problème de boîte, de Vettel. Malgré tout, malgré son problème de boîte, il fait quand même quatrième et Weber fait cinquième de mémoire. Et donc, voilà, c'est quand même, même quand ils ont des pépins techniques, en ce moment, ils finissent la course et avec l'avantage technique qu'ils ont, ils finissent la course à de bonnes positions. Et là, on arrive sur des circuits qui vont plutôt leur convenir. Le Brésil, où ils ont bien fonctionné l'année dernière. À Abu Dhabi, ils ont bien fonctionné. Et théoriquement, quand même, la Corée, en dehors des lignes droites, qui est un circuit assez tournant, qui devrait pas mal leur convenir. Oui, honnêtement, là, ça va être difficile parce qu'il faut compter sur un chaos sur les trois pilotes.
Même Alonso, en comparaison, est maître de son destin, en comparaison. Oui. Il faut qu'il gagne, bien évidemment, il faut qu'il soit devant les Red Bull.
C'est pas une mince affaire. sa théorie des podiums ne suffisait pas.
Non, ça ne suffit pas. Mais il est encore maître de son destin.
Finalement, celui qui est dans la meilleure position, celui qui peut peut-être le plus se frotter les mains, c'est Alonso, qui, d'un côté, voit se rapprocher Vettel de Weber, donc ce qui pourrait réactiver certaines tensions au sein de l'équipe et donc donner des résultats pourquoi pas catastrophiques. Et derrière, il a deux pilotes qui ne vont sans doute pas plus pouvoir jouer le championnat parce que la distance est trop grande, en tout cas commence à devenir préoccupante, mais qui vont quand même être en dispute pour jouer des podiums et pourquoi pas la victoire. Et donc Alonso, dans ce cas-là, il a peut-être plus Massa pour l'aider, mais il a quand même Hamilton et Button qui indirectement peuvent lui apporter des points. Tandis que la lutte entre les pilotes Red Bull pourrait aussi lui rapporter des points. Donc, à la limite, lui, pour le moment, il se fait discret en se disant « Pourvu que ça aille dans ce sens-là, quoi ».
On passe à la cinquième place.
Oui, celle de Button, je parie, non ?
Celle de Button, que j'ai mis cinquième, que les auditeurs ont mis sixième. Et toi, Dino, tu l'as mis troisième.
Ouais, je suis fou, moi. Pour la même raison que j'avais mis Weber deuxième lors de la dernière course, le pari stratégique. Voilà, moi, j'ai aimé le pari stratégique.
Ça, c'est vraiment dommage que c'est pas marché, voire pas marché du tout, parce que finalement, il gagne une place, et c'est finalement grâce à Hamilton et son souci. Finalement, son pari lui aura même rien apporté.
Ce genre de stratégie, c'est pas à Button qu'il faut la donner, mais à Hamilton. Vu qu'Hamilton, il a fait peu d'essais, qu'il a eu des difficultés tout le long du week-end, il aurait peut-être mieux fallu lui mettre des pneus durs et ensuite dire voilà, il finira la course en pneus tendres. Avec les pneus tendres, Hamilton fera quand même plus de choses que Button sur la fin de course. Mm. Même si Button n'a pas été mauvais sur la fin de course.
C'est aussi une preuve du retard de McLaren, c'est-à-dire qu'ils osent des trucs qu'ils faisaient pas avant quand même, faut bien le dire.
Mais voilà, moi c'est surtout l'effort stratégique et aussi la belle prestation quand même en qualification avec des pneus durs, ouais. Où c'est quand même battu pour les deux premières lignes. Donc c'est,
deux
c'est,
pour et moi, c'est parce que bon, il part cinquième, hein. C'est ça.
Ouais.
S'il part troisième, c'est pas forcément la même course.
C'est ça. C'est là où je pense aussi que la stratégie, si la stratégie de McLaren elle est un peu bizarre, il valait peut-être mieux mettre Button, qui lui serait resté à sa position avec des tendres, en disant voilà Button, tu te qualifies, t'essaies de te qualifier quatrième ou troisième, et avec les tendres essayer au moins de faire un podium. Hamilton, il a très bien pu partir en dur, en se disant voilà en dur, bon bah je vais faire le tour que je peux, je vais partir assez loin, mais ma stratégie en pneus durs va me permettre de gagner des positions par le décalage de stratégie. Alors je sais pas. En tout cas, moi, la stratégie de McLaren m'a semblé bizarre.
Qu'on dit les auditeurs de Button?
Alors, il a été le mieux classé par Steph Core, qui l'a mis cinquième, mais sans commentaire. Puis Maël l'a mis sixième, toujours sans commentaire. Globen l'a mis sixième également, nous disant sa stratégie n'a pas marché, mais mine de rien, il est toujours là. Et Fab007 et Sato Kamikaze l'ont respectivement mis septième chacun. Il a tenté un pari pour Fab007 et il l'a perdu, tout comme son titre d'ailleurs. Tandis que Sato Kamikaze nous dit qu'il est désolé de le mettre aussi bas, mais avec sa course à la Rosberg.
Oh, on l'a vu quand même. Bon, c'est vrai, il était premier, mais...
C'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec Sato Kamikaze. C'est pas une course à la Rosberg, c'est une course moyenne, un peu à l'image de leur course à Singapour, où ils avaient été moyens. On les a quand même vus. Enfin, ils ont quand même fait des choses en course. Je pense notamment à Hamilton, qui a pas été mauvais en course.
Nous allons passer à la quatrième place, et ça n'est pas encore la personne auquel tous nous pensons. Puisqu'à la quatrième place... C'est Fernando Alonso.
Oh non.
Fernando Alonso, que j'ai mis quatrième.
Je dis ça, mais je l'ai mis de mauvais en plus.
Que tu as mis cinquième.
Ah. Ouais.
Et les auditeurs l'ont mis quatrième aussi.
Ouais.
Fernando Alonso, qui encore une fois est celui qui arrive à rouler aussi vite que les Red Bull.
Bah c'est le seul. Hein.
C'est le seul, oui. C'était moins flamboyant qu'il y a deux semaines.
Voilà, c'est honnêtement, c'était pas du tout un circuit pour. Il l'a dit après. C'est finalement c'est une bonne opération. Ce troisième, c'est vraiment tout ce qu'on espérait. C'est un circuit taillé pour la Red Bull. Mm. Il sauve les points. Il a fait le travail. Moi, pour moi, voilà, il a fait le travail.
Vous pouvez pas forcément faire mieux, donc c'est très bien pour lui.
Il est même, je pense, il est même peut-être même plus content de d'être à égalité avec Vettel parce qu'il sait très bien, c'est un renard. C'est très bien que ça peut lui profiter à terme. Donc, finalement, peut-être que ce résultat, au contraire, il en est même plutôt heureux. Du côté des auditeurs, nous avons Sato Kamikaze qui l'a mis sur le podium en troisième position. Tout comme Maël, d'ailleurs, qui l'a mis troisième aussi. Sato Kamikaze qui nous dit course solide et il est le seul avec Weber à avoir réussi à suivre Vettel. Nous avons Globen et Steph Core qui l'ont mis quatrième. Globen qui nous dit son objectif de ne faire que des podiums tient toujours. Tandis que Fab007 l'a mis cinquième, course solide et même plutôt bonne. On l'a peu vu en définitive, mais il a souvent été proche du rythme des Red Bull. Il est le troisième homme de cette fin de saison.
Ouais.
Là, pour le coup, pour Alonso, j'ai envie de dire que c'était une course à la Rosberg.
Oui, oui, on peut le dire.
Même si on l'a plus vu parce que c'est un prétendant au titre, mais oui. Voilà, il a fait une très bonne course, mais il y avait pas de panache, il s'est pas défoncé parce que rapidement le tri a été fait quoi.
De toute façon, par rapport à son coéquipier, ne peut que resplendir. Hein.
Oui, oui, ça c'est certain. C'est...
Oui. Et ça relance encore les. Alors pas forcément avec Kubica, mais en tout cas la présence de Massa.
On en parle maintenant, mais même chez Sauber maintenant on en parle. On parle de Massa chez Sauber. Ah pour Kobayashi chez Ferrari, nous on est d'accord.
Hein. Wow.
Alonso peut-être moins, mais...
Alors ça serait une énorme surprise, hein, quand même.
Ah, mais ça serait énorme. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, Alonso, il a quand même eu le ménage qui a été fait entre Kubica, qui était un petit peu son rival sur le départ, Kubica qui est rapidement sorti, Hamilton qui revenait fort et qui a eu son problème de boîte, et Button, sans lui porter ombrage, voilà, qui était pas dans le rythme d'Alonso.
Non, pas du tout.
Voilà, donc il a eu une course, ma foi, tranquille. La troisième place, il l'attendait pas. Elle lui est tombée dans les bras au bout de quelques tours. Et il a su la garder. Il a pas fait d'erreur. Voilà. Il a vraiment fait le maximum syndical, sans en faire trop.
On passe au podium.
Avec cette question, on sait qui va sabler le champagne. Mais sur quelle marche sera-t-il?
À la troisième place,
Je parie qu'il n'est pas troisième.
Nous avons le leader du championnat. Donc, c'est Mark Webber, que j'ai mis deuxième. En fait, j'ai respecté le classement. Que Dino, tu as mis quatrième.
Ah, donc, j'ai bien respecté le classement. Commencez à calculer dans vos têtes, hein.
Et les auditeurs l'ont mis deuxième. Webber, déjà, qui a été le seul à te dire le rythme de Vettel, ce qui est pas rien, et qui fait quand même, c'est, le grand gagnant, c'est Vettel, bien sûr, mais c'est quand même l'autre grand gagnant. Il réussit quand même à être toujours premier et, sans gagner de course, à augmenter son avance sur le deuxième. Qui ne sont plus les mêmes qu'il y a un mois, mais il a toujours plus d'avance.
Et j'ai encore envie de dire...
Et je vais reprendre les termes de Cédric Voissard hier dans Autocritique. Si jamais Webber gagne une des trois courses, avec l'écart que ça va créer. Alors, je dis pas qu'il va gagner le titre.
Ah non, mais c'est ce qu'a dit Webber. Lui-même, il l'a dit. Hein. Il a dit, il faut que je gagne une course. S'il gagne une course,
il sera pas très loin. Alors, il peut pas faire l'épicier, parce que la situation fait qu'il ne peut pas le faire.
Il l'a quand même un peu fait.
Non, mais c'est ça le truc. C'est que c'est pas un épicier style Alonso 2005-2006, ce que je veux dire.
Oui.
Tu vois, il faut...
Même si j'ai pas le grand souvenir de cette période.
Non, il faut qu'il quand même...
Clairement.
Il peut pas se permettre d'être complètement un épicier.
C'est pas Button, quoi.
Voilà. Il faut qu'il fasse gaffe quand même à ce qu'il a autour de lui. Qu'il a des requins autour de lui, là, hein.
Oui, voilà.
Voilà. Mais malgré tout, comme tu dis, déjà, il cultive son jardin. Il cultive ses petits points d'avance qu'il a.
Là, quand même, j'avais déjà fait la remarque pour l'Italie où j'avais trouvé qu'il avait fait l'épicier. Et je trouve qu'au Japon, il a encore fait un peu l'épicier. C'est-à-dire que mais en même temps, c'était prudent. Il a pas voulu aller se frotter à Sébastien, sachant très bien comment ça risquait de se finir. Donc, il a été prudent. Maintenant, c'est vrai que du coup, dans la course, un peu comme Alonso, on l'a pas vu faire grand-chose, quoi. Il est resté deuxième. Il s'est satisfait de sa deuxième place en se disant... Eh ben, je gagne encore 3 points sur Alonso et Vettel ne revient qu'à 14 points. Donc voilà, il commence à faire le calcul. Et il nous a montré à Singapour qu'il était capable de prendre des paris, de prendre des risques. C'est ce qui, je pense, aujourd'hui, en fait peut-être vraiment le favori pour le titre. C'est qu'il est capable de s'adapter et il a la chance avec lui aussi.
Ah oui.
Ce qui est important.
Alors, qu'ont dit les auditeurs de Webber?
Alors, le mieux qu'il l'ait classé, c'est Fab007, en compagnie de Maël, qui l'ont mis deuxième. Fab qui nous dit un peu chanceux avec l'abandon de Kubica, il a tout de même effectué une bonne course, mettant la pression sur Vettel. Il gère son leadership et prend le parti de s'adapter aux événements plutôt que de les forcer, c'est tout à fait vrai. Pas bête, voyons s'il peut le faire sur les trois derniers Grands Prix. Nous avons également Sato Kamikaze qui l'a mis deuxième, course solide, et il est le seul avec Alonso à avoir réussi à suivre Vettel.
Oui, c'est vrai.
Et nous avons donc Steph Corr et Globen qui l'ont mis troisième. Globen qui nous dit « Solide, tout comme son coéquipier, il a réussi à consolider sa place au championnat. »
Quelque chose à rajouter sur Webber?
Non. Tu sais, en fait, c'est à toi que je devrais poser la question. Parce que moi, je parle tout le temps. Donc.
Mais non, mais...
J'ai dit « As-tu quelque chose à rajouter sur Webber ?»
Non, mais je ménage le suspense. Bon. The big moment.
Ah, hein. Ça se trouve, ils sont ex-aequo, les cochons.
Un vent divin a soufflé samedi sur le Suzuka. Et un autre vent divin a soufflé sur Suzuka dimanche. Et oui, une Sauber en deuxième place du classement du SAV avec Kamui Kobayashi. Rappelons, il a commencé 14e et oui. Il a fini à la septième place.
Je devance ton coéquipier. Bénéficiant au passage, certes, des abandons, mais contrairement à d'autres qui bénéficient des abandons, lui, il s'est pas contenté de bénéficier des abandons.
Quoi. Lui, il n'y a pas de doute, hein, on l'a vu dépasser.
Il est quand même allé chercher un peu plus.
Sa carrosserie s'en souvient aussi, hein, parce que il a fait des dépassements de P2, hein, il touche.
Ah oui, non, mais alors, en plus, il a été violemment attaqué, je trouve, par, c'était qui? C'était El Guersuari, je crois. Qui l'a très mal traité dans Airspin parce qu'il faut voilà il dépasse Kobayashi le dépasse je crois à l'extérieur et Alex Bersuari qui vraiment la trajectoire il la prend comme si de rien n'était et qui rentre dans Kobayashi.
Il a fait des dépassements par l'extérieur par l'intérieur voilà les autres ne savaient pas comment doubler et lui si.
Oui.
C'est rare de, parce que bon, on sait, hein, quand même, un Grand Prix national, ça compte pour un pilote, c'est normal. Mais là, quand même, à ce point, c'est que ça devient rare, quand même. Je veux dire, ouais. Même un Alonso peut être bon en Espagne, Weber, on sait, il veut bien se montrer en Australie. Mais là, quand même, Kobayashi, ça fait un truc de fou, un truc de malade. Ouais.
Il avait le faux cul, comme on dit, hein. Ah ouais. Sérieux. il c'est un vrai feu d'artifice, ce qu'il nous a fait.
Oui, oui.
Voilà. Les Japonais, sont de bons pilotes. Ils savent dépasser. Le problème, c'est qu'ils réussissent pas toujours.
Oui.
Et là, lui, il se trouve qu'il sait dépasser et qu'il réussit, donc,
Voilà. Après, le talent de Kobayashi, c'est pas une surprise non plus. Ça fait un an.
Non, voilà. Alors maintenant, c'est plus une surprise. Au contraire, en plus, faut être honnête, on l'attendait aussi un petit peu. Il est chez lui, et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le genre de pilote en plus qui je trouve correspond bien à Peter Sauber. Oui. Peter Sauber, c'est les jeunes pilotes un peu comme ça, qui impressionnent rapidement
et très talentueux. Alors, quelles remarques ont fait nos chers auditeurs sur Kobayashi? Qui ont dû être dithyrambiques, bien évidemment.
Tout le monde l'a classé. On va d'abord, on va jouer le suspense. On va partir pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit. On a Maël qui l'a mis 5e sans laisser plus de commentaires. On a Sato Kamikaze qui l'a mis 4e. Comme quoi, hein? Il va sans doute s'en vouloir. En disant de la 14e à la 7e place avec 4 dépassements à la japonaise dans l'air spin. À noter qu'il a terminé la course avec un déflecteur à moitié défoncé, un trou dans le ponton et l'aileron avant qui pendait. Takuma Sato a sans doute trouvé son remplaçant. Fab007 a également mis Kobayashi 4e. Qui a dit qu'on ne pouvait pas doubler en Formule 1? Il confirme ce que l'on entrevoit de son talent sur un circuit particulièrement sélectif, vivement qu'il soit dans une écurie compétitive. On a également Steph Kaur qui l'a mis 1er. Il a enflammé la course et ne m'a pas fait regretter de ne pas avoir plus profité de ma grasse matinée. Tandis que Globen l'a également mis 1er. Le pilote de ce Grand Prix, dit-il, plus que Vettel. D'ailleurs, il me rappelle les débuts de Vettel et j'espère qu'il ira dans un top team. Mais chez Ferrari, Globen.
C'est vrai que plus les Grands Prix passent, plus on a la persuasion d'une part qu'il est sans doute le meilleur pilote japonais qu'on ait jamais eu.
Oui.
Et qu'il sera sans doute, on l'espère, le premier pilote japonais à s'imposer. Quand même, le Japon qui est un grand pays de sport auto, ça serait bien quand même que ça arrive un jour.
Bah oui, en tout cas maintenant je pense qu'il rentrera dans le cercle des Japonais qui feront des podiums. De là à s'imposer, oui. Je pense qu'il ait la voiture.
Ah voilà, faut qu'il ait la voiture, on est d'accord.
Mais je pense honnêtement que ça peut être le genre de pilote qui pourrait intéresser, pourquoi pas à terme, une écurie comme Red Bull. Voilà, pourquoi pas. Disons que dans les top teams, c'est sans doute l'écurie dans laquelle je vois le plus.
Ouais, Red Bull, et puis l'hypothèse Ferrari n'est pas si bête que ça, hein.
C'est vrai que c'est aussi l'une des qualités de Kobayashi, c'est qu'on sait que, contrairement à d'autres Japonais qui avaient tendance à vendanger la moitié de leurs occasions,
ah oui.
Le ratio de Kobayashi est quand même plus européen, on dira, plus raisonnable.
Oui. On passe à la première place.
Et qui est donc premier?
Oh. Sans surprise, c'est celui qui est arrivé premier.
Voilà.
De la course. Quelle surprise!
Oh. Il n'y avait déjà pas de suspense dans la course, il n'y a même pas de suspense pendant le classement du SAV.
C'est donc bien l'homme bouteille d'eau, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel.
Je vous jure, hein, chers auditeurs, je n'ai fait aucun pari avec Shinji pour qu'il nous relance cette vanne. Je n'ai pas mis au défi rien. J'ai pas dit chiche, non. Même pas. Il l'a fait tout seul de son propre chef. Je comprends rien.
C'est une blague que je garde dans mon carnet à blagues depuis que je connais Sébastien Vettel.
Eh ben dis donc. D'ailleurs, l'an dernier, faut savoir qu'il espérait que Badoer fasse longtemps pour l'appeler Badoer au bout de 3 ans.
Badoer. Donc Vettel qui tout simplement a été cité premier par toi, par moi et les auditeurs.
Oui, d'ailleurs dans les auditeurs, il y a que deux personnes qui font de la résistance, c'est pour avoir mis Kobayashi. C'est Steph Curry et Globen qui l'ont mis deuxième. Globen qui nous dit week-end nickel, domination de bout en bout, tandis que Steph Curry n'a pas fait de commentaire. Et les autres donc l'ont mis premier, hein. Maël l'a mis premier sans commentaire, Sato Kamikaze l'a mis premier, il a survolé la course de bout en bout. Tandis que Fab007 l'a mis également premier, un week-end parfait qui fait suite à un très bon Grand Prix de Singapour. Vettel est définitivement de retour et risque d'être le plus coriace adversaire de Weber.
Vettel, son beau casque rouge et blanc, qui ressemblait vachement d'ailleurs au casque de Kobayashi.
Mais moi j'aimerais qu'il garde son casque, j'aime bien le casque façon canette de Red Bull, ça me fait beaucoup rire, mais je trouve qu'il est super beau avec un casque blanc comme ça.
Ouais, il y a même, tu sais qu'il y a même des hommes canettes de Red Bull à Suzuka, parce qu'on en a vu dans le public déguisés en canettes de Red Bull.
Mais il y a eu beaucoup de manières de faire des canettes de Red Bull ce week-end, ouais. En radeau. D'ailleurs, ils songent à appeler Eugène Delacroix pour faire le radeau de la Red Bull. Tu vois.
Ça, celle-là, t'aurais pu éviter.
Ah oui, là, c'est sûr, c'est pas un Vittel. Hein. Là, c'est une autre catégorie culturelle dans les blagues. Hein. Je suis désolé.
Encore une fois, c'est une victoire auquel il n'y a pas grand-chose à dire. Il part devant. Bon, il n'est pas tout le temps en tête parce qu'il y a eu l'épisode Button, entre guillemets.
Ouais, mais justement, face à ça, il a été patient.
Oui,
c'est
vrai.
Ce que j'apprécie dans sa course. Et c'est vrai que sa course... Moi, je suis sûr qu'il y a quelques mois, Vettel avec Button, il fait tout et n'importe quoi pour aller se chercher, surtout s'il y avait Weber derrière lui. Et là, on a vraiment l'impression d'un Vettel qui s'est pas forcément inquiété, qui s'est peut-être dit aussi que Weber allait pas forcément trop le chercher. Donc voilà, peut-être qu'il y avait aussi peut-être eu des discussions avant, peut-être qu'il y a eu un accord tacite, en tout cas pour cette course-là, pour neutraliser un peu les positions. Et en tout cas, Vettel s'est pas paniqué, alors que à une certaine époque, il aurait peut-être pris des décisions moins sages.
Et pour une fois, l'accolade a été... C'était pas McLaren, mais...
C'était plus chaleureux, quoi.
Voilà, quand Vettel gagne, c'est plus chaleureux, bizarrement.
C'est justement ce qui me laisse à penser que peut-être qu'il y a eu un accord tacite, en tout cas pour le Japon, de dire voilà, on gèle un peu les positions, sauf circonstances de course, on gèle un peu les positions, ouais, de la qualif. Quoi qu'il arrive, tous les deux, les gars, vous êtes gagnants.
Donc, au niveau des classements.
Alonso est toujours leader.
Il est toujours leader avec 220 points. Mais Vettel est deuxième avec 219.
Fratelli d'Italia.
Un point.
On s'en fout, il est en tête. Et je vous jure, si Alonso il gagne ce classement à la fin de saison, je vais à Maranello et je vais lui donner un exemplaire du classement encadré. En précisant bien que c'est moi qui ai donné tous les points, bien sûr. Vous n'aurez rien à faire, auditeur.
Troisième, Mark Webber, 198 points. Quatrième, Hamilton, 179. Donc même chez nous, hein, l'écart se creuse.
Même Webber, il commence un petit peu à accuser le coup.
Ouais. Et Button, 157.
Bah Button, c'est mort.
Ouais.
Ah, il était déjà pas champion dans le classement du SAV l'an dernier, il le sera encore moins cette année.
Chez les équipes, Red Bull est devant 417 points, devant McLaren 334.
C'est énorme.
Et attention, parce qu'il y a 83 points d'écart.
Ouais.
Ah, ça commence. Donc peut-être que
en Corée, peut-être que...
Le titre constructeur SAV va tomber.
Ouais. J'aime bien ce classement cette année. Vraiment, moi, il me fait triper ce classement cette année.
Ferrari 308, Mercedes 176 et Renault 159. Dans l'autre classement, Mark Webber est en tête avec 220 points. Fernando Alonso et Sébastien Vettel sont ex aequo, mais Alonso a une victoire de plus. Mmh. 206 points. Lewis Hamilton 192. Donc on est au-delà des 25 points. Et Jenson Button 189. À noter que ce sont les seuls qui peuvent être encore classés. Chez les constructeurs, Red Bull est devant avec 426 points, devant McLaren 381, Ferrari 334.
Et quand vous allez voir,
là, il y a de bons écarts quand même, hein. Mercedes 176 points et Renault 133. Donc là, c'est clair que Renault sera cinquième. Alors, le fait marquant. Donc, revenons sur le fait marquant de Singapour, si ouais. je ne me trompe pas. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2010? Est arrivé troisième. Le pari osé du leader du championnat qu'il a voulu mettre le leader du championnat pour pas mettre Mark Webber parce que selon lui ça impliquait des choses. 16%, 3 votes. Ouais. C'est vrai que c'est pas beaucoup.
Oui, oui, donc vous avez aucun goût pour la stratégie, ça me déçoit, chers auditeurs, vraiment.
Kovalainen qui s'enflamme sur la fin de course, 26%, 5 votes. Oui. Et quand même, l'accrochage Webber-Hamilton, 58%, 11 votes.
Ouais. Encore une fois, les gens se font avoir par le sensationnel.
Bah non, sinon ils auraient voté Kova.
Oui, non mais Kova c'est du fou, non mais c'est du faux sensationnel, c'est voilà, c'est vrai sensationnel, c'est quand même l'accrochage entre le numéro 1 et le numéro 3 mondial à l'époque.
Oui. Alors Dino.
Ah, j'ai le choix. Alors ouais, tout à l'heure, j'ai sorti l'expression Hamilton qui s'abonne à Chat Noir Magazine et j'avoue que j'aime bien la formule.
La formule est très jolie, je trouve.
Mais quand même, j'ai le premier choix et je suis obligé de dire le festival offensif de Kobayashi.
Oui. Alors, est-ce que les auditeurs nous ont donné des faits marquants?
Alors, en faits marquants, je crois que nous en avons un qui nous a été proposé, si je me trompe pas, par Fab007 qui nous dit la fin probable des chances de titre pour les pilotes McLaren.
J'aurais bien dit un truc sur McLaren, mais comme les auditeurs ont déjà dit quelque chose sur McLaren, je vais dire... Bon, de toute façon, vu que je vais perdre face à Kobayashi...
Mais non, je suis pas défaitiste, j'ai dit. S'il te plaît, fais une deuxième place, comme d'habitude. Histoire que ce soit les auditeurs qui gagnent et que je continue de mener au classement.
La première victoire de Vettel depuis 4 mois.
4 mois? Oh putain. Ah ouais, depuis l'Europe. Oh merde.
Depuis le Grand Prix d'Europe. C'est bon, tu as tout bien noté?
Oui, tout est parfait, Shinji, comme d'habitude.
Donc, n'oubliez pas, hein, c'est sur le site, c'est en première page, et l'adresse du site, vous la connaissez, c'est savf1.fr.
Voilà. Oh, c'était beau, ça, Shinji.
T'as vu, c'est stylé et tout.
Oh, mais je trouve ça magnifique, tu vois, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois, Shinji, tu l'as tellement bien dit. Ça a pris fort, là, tu t'élèves.
Là, tu vas trop loin, là.
Mais je vais toujours trop loin, Shinji, c'est ça mon problème.
On passe au drive-thru.
Drive-thru. Ok. Faut que j'arrête, ça m'énerve. Freddie Mercury sort de ce corps.
C'est bizarre. Lors de cette séquence, à chaque fois, tu nous la sors.
Mais c'est parce que je suis un tel fan de Freddie Mercury et de Queen.
Oui, mais ils ont jamais écrit une chanson qui s'appelait Drive-Through.
Non, mais d'accord, c'est pas Drive-Through, mais c'est Breakthrough. Donc ouais, voilà, c'est forcément, je fais un lien, quoi. C'est le fan qui est en moi qui ressort.
Alors, pour les Drive-Through, je vais donner mon Drive-Through. Et ce Drive-Through, attention, va... consistait en trois mots.
On sent la prise de pouvoir de la part de Shinji. Ah. Tout de suite, il le donne. Il veut pas qu'on lui pique.
Non, je veux pas qu'on me le pique.
Tu fais une dino, là-bas. Oh, calme-toi.
Je vais dire trois mots, et ces trois mots seront tellement évidents que je n'aurai rien d'autre à dire sur ce drive-thru. Et ces trois mots, et attention, tu je dis bien. Trois. Trois, ça n'est pas deux. Trois, ça n'est pas quatre, mais bien trois. Je vais dire... Luca Di Grassi.
Non, franchement, faut avoir l'air con. Je suis désolé, mais... J'aime bien farter la gueule.
Voilà. C'était le tour d'installation, quand même.
Oui, mais ça arrive au plus grand. C'est... Bon, d'accord, là, c'est arrivé très très tôt dans le tour d'installation.
Voilà.
Ça sera dans l'histoire pour ça, quoi.
Ouais. Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on savait que le Grand Prix à Suzuka était... Enfin, le circuit de Suzuka était compliqué. Mais là, quand même...
Là, c'est con, c'est tout.
Là, c'est... Non, c'est dur, non, c'est-à-dire, c'est super dur, c'est trop con, c'est-à-dire que même pendant le tour d'installation, ils sont en danger, quoi.
Oui. Alors, mais j'ai pas trop compris, en fait, comment il est sorti. Il a pris un vibreur, peut-être qu'il y avait encore un peu de l'eau sur le vibreur, qu'il est parti, enfin, honnêtement, je sais pas.
Enfin, en plus, il allait pas à fond, quoi.
Voilà, c'est le tour d'installation, les mecs, ils ont pas au taquet. Non, c'est pas compréhensible.
Alors, Dino.
Alors, moi, j'aurais un drive-through. Moi aussi, c'est contre un pilote. Et moi aussi, c'est contre un pilote qui a bien merdé son week-end. Qui a bien merdé sa course. Mais merdé comme même Petrov l'a pas merdé comme ça, tu vois. J'ai envie de donner un beau drive-through à Felipe Massa.
C'est vrai que, bon.
Parce que.
Ayons une pensée pour cette pauvre Force India, d'ailleurs.
Honnêtement, c'est, voilà, c'est, je, Alors est-ce que c'est lié à sa situation chez Ferrari ou il, pour moi il a perdu les pédales honnêtement et je ne comprends pas et donc du coup ça se double d'un drive through contre la FIA même si j'ai pas forcément envie d'accabler la FIA, je ne comprends pas qu'on donne une pénalité à Petrov et qu'on ne donne strictement rien à Massa qui a été sur ce coup-là totalement suicidaire. Il a beau dire, essayer de se défendre, c'est sa grande marotte en ce moment, il se trouve toujours des excuses, il devient Sébastien Bourdais. Il a beau essayer de se défendre en disant, Rosberg, il a resserré la trajectoire devant moi. Non, déjà, Rosberg, il a pas resserré la trajectoire. Rosberg, il était 60 cm au bord de la route. Aux dernières nouvelles, une Formule 1, ça fait pas moins de 60 cm. Donc, t'étais obligé de passer sur une partie de l'herbe mouillée de la veille. Et ensuite, il se trouve que, à l'approche du virage, il y a Sutil qui ferme la porte, mais qui passe à côté de lui, à l'extérieur du virage. Donc, c'est vrai que sur le coup, Massa, il a deux choix. Soit il passe sur l'herbe, soit il freine, et il accepte de perdre de place d'un coup. Bon. Il a fait le choix un peu débile, hein. C'est-à-dire, je passe par l'herbe, hein. Dans un virage qui est quand même, voilà, encore une fois, dans F1 2010, ça passe. Mais dans la vraie vie, ça ne passe pas.
Alors, t'as vu, c'est la grande hypothèse, c'est de dire que depuis l'Allemagne, quelque chose s'est cassé chez Felipe Massa. Quelque chose a changé.
Et dès le début de saison, quelque chose avait changé.
Ouais. Non, mais il y a les trois moments, en fait. Il y a soit, oui, non, mais vous vous rendez compte, après la Hongrie, aucun pilote ne peut revenir comme ça après ce qui s'est passé. Donc ça, c'est l'hypothèse, c'est fataliste. Oui. D'une certaine façon. Il y a l'hypothèse, ouais, mais c'est normal, Massa, c'est une merde. Sous-entend que c'est normal cette saison qu'il se fasse défoncer parce que en face de lui il a Alonso.
Voilà.
Et l'hypothèse Allemagne disant non mais avant ça allait. C'est surtout depuis l'Allemagne en fait où niveau mental ça va pas. Donc de toute façon quel que soit le moment c'est un peu la merde quand même pour Massa.
Moi honnêtement je pense que c'est un mélange parce qu'il y a plusieurs étapes.
Oui bien sûr.
Je pense d'abord que bien évidemment il n'est pas revenu au meilleur de sa forme. Je pense qu'il il reste très rapide, il l'a montré lors des essais privés, sauf qu'il est arrivé malheureusement très rapidement, il a commencé la saison par une victoire de Alonso. Il a honnêtement dès le début de la saison, il se faisait marcher dessus. C'était déjà un peu vrai à Bahreïn, ça s'est confirmé de course en course. Et c'est vrai que la position numéro 2 l'a pas forcément mis dans une position de confiance avec lui-même. Et puis peut-être que aussi il a envie de trop en faire, il a trop envie de prouver qu'il est un numéro 1, ce qui honnêtement chez Ferrari il ne peut pas être numéro 1. Il a en face de lui un coéquipier qui fait des erreurs mais qui a un taux de réussite et un taux de conversion qui doit être de l'ordre de 90%, qui rate rarement des occasions. Voilà, honnêtement, je pense que là il a voulu trop bien faire, il s'est mis la pression, il s'est tanké en qualification, il part 11e. Il a perdu les pédales sur le départ. Honnêtement, ça ne lui fait pas marquer des points pour 2011, parce que ça veut dire qu'en 2011, on ne pourra pas...
De toute façon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais à part en 2008, Massa peut pas dire... Enfin voilà, il a quasiment toujours été numéro 2.
Je pense que honnêtement, c'est un pilote très rapide, malheureusement, et autant Schumacher, être confronté à un Schumacher en fin de carrière, ou être confronté à Kimi Raikkonen sans porter ombrage aux deux pilotes. C'est pas pareil que d'être confronté à Fernando Alonso, qui est déjà dans les gènes, c'est un tueur. Et voilà, le seul qui a rivalisé face à Alonso et qui a pu faire perdre les pédales à Alonso, c'est Hamilton. Et sans porter ombrage à Massa, Massa n'est pas Hamilton.
Et là, soit il se met complètement dans la position de numéro 2, et dans ce cas-là, il peut rester très longtemps chez Ferrari, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Ou en effet, peut-être commencer à voir ailleurs.
On peut pas prétendre l'année prochaine être numéro 1 de l'écurie ou même ne serait-ce qu'un numéro 1 bis s'il fait des courses comme ça. Autant qu'il fasse des courses anonymes en 7e position ou qu'il fasse rien, plutôt que de se foutre en l'air comme il l'a fait, parce que moi j'appelle ça un suicide en direct. Il est poussé par personne, il y a aucune porte qui se ferme, voilà, il y a juste le fait qu'il y a à gauche aucune porte qui s'ouvre, devant aucune porte qui s'ouvre, la seule c'est soit à droite, soit en passant sur l'herbe. Il a préféré passer sur l'herbe plutôt que de freiner.
Est-ce que les auditeurs nous ont mis des drive-through?
À nous? Non.
Pas à nous, mais sur la course. Ou sur autre chose,
d'ailleurs. Oui, il y en a un. De Fab007. Mm-hmm. Qui a mis un petit drive-through à Sutil. Alors, je serais capable de le commenter parce que je n'ai pas compris de quoi Fab faisait référence. Il a pris quelques risques pour lui, mais surtout pour les autres, en voulant absolument rentrer au stand. Donc, j'ai pas souvenir de ce passage.
Ah oui, c'est quand son... Oui, quand son... Enfin, son moteur n'a pas explosé, il a eu une fuite d'huile.
Ah oui, effectivement.
Et
oui.
C'est vrai que moi aussi, sur le coup, je me suis dit, mais il faut qu'il s'arrête tout de suite, il est en train de foutre de l'huile partout.
Oui, effectivement.
Et en effet, il a un peu perduré, mais c'est vrai qu'il n'était pas très très loin de... Parce que oui, ça a fait un beau panache, hein. Donc ça doit être ça, oui, dont il fait référence. On passe au concours.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors, quelle était la question?
Oui, alors, la question nous était proposée par Sato Kamikaze, de mémoire, qui nous demandait, puisqu'on était dans un prix de nuit, à quel endroit et qui avait effectué les premiers tests d'une monoplace dans des conditions nocturnes. Et la réponse était Shinji.
Alors, où c'était au Paul Ricard, justement. Donc, qui, par contre... C'était pas Toyota, par hasard?
Je crois que c'est Piqué.
Ah, c'est Piqué.
Et d'accord. Je crois que c'était sur une GP2.
GP2, puis F1, sans doute, quand même.
Non, je crois que c'était juste une GP2.
Ah, seulement GP2. Ah, ouais.
Alors, non, après vérification, en fait, il l'avait pas fait à bord d'une GP2, mais il l'a fait à bord d'une Renault R27.
Donc bien à bord d'une F1, quand même.
Oui, bien à bord d'une F1, et c'était effectivement sur le Paul Ricard.
Alors, a-t-on des réponses?
Alors, nous avons eu 3 réponses, et donc 3 questions, qui sont les suivantes, qui vont servir à départager nos trois bonnes réponses. Alors, Shinji, je te dis les questions telles qu'elles viennent. Ouais. Pour quelle raison Jacques Lafitte peut-il en vouloir aux organisateurs du tout premier Grand Prix du Japon?
D'accord.
Alors ensuite, question suivante. Pourquoi James Hunt et Carlos Rotman, premier et deuxième du Grand Prix du Japon en 77, ne sont-ils pas montés sur le podium du Grand Prix? Et enfin, troisième et dernière question. Depuis 1987, combien de fois le Grand Prix du Japon a-t-il été déterminant dans l'attribution du titre? On a parlé d'ailleurs lors de la dernière émission, je crois.
Ouais.
Alors, Shiji, laquelle de ces 3 questions sélectionne?
Eh bien, j'ai envie de rendre hommage à notre cher Jacques Lafitte.
Eh ben, Shinji, tu vas dépuceler quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui va rentrer pour la première fois dans le palmarès du concours Top Opposition.
Waouh.
Puisqu'il s'agit de quelqu'un que nous avons déjà eu dans cette émission. Quelqu'un qui fait partie du club 153, puisqu'il s'agit de Fab007, qui n'avait encore jamais gagné. Et d'ailleurs, j'ai fait le compte. Hein, des victoires depuis le début de saison, et donc je vous rappelle, d'ici quelques semaines, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, nous organiserons un tirage au sort. Chaque victoire vous vaudra donc un petit ticket. Et donc, pour le moment, hein, dans la casquette tirage au sort, il y aura 3 tickets pour Steph Corr, 3 pour Globen et 3 pour Bucher. Donc Globen reste quand même, malgré tout, toujours, dans la place, quoi.
Ouais.
Il y aura 2 tickets pour Sato Kamikaze. Et respectivement, 1 ticket pour Maël, Bilo, Iceman Air et donc désormais Fab007.
Je trouve que ça fait 13 saisons 2010 quand même.
Oui.
On a 3-4 on a 3-4 auditeurs à 3-4 victoires.
Voilà. Et donc, je vous rappelle rapidement la question. Pour quelle raison notre ami Jacques Lafitte peut-il en vouloir aux organisateurs du tout premier Grand Prix du Japon? Pour répondre, vous utilisez le formulaire de contact du site www.savf1.fr. Vous choisissez bien évidemment la rubrique concours top opposition et vous répondez à la question tout en pensant à nous envoyer une question sur le Grand Prix de Corée. Démerdez-vous, hein. Trouvez quelque chose.
Sur la Corée, voilà.
Mais en tout cas, on peut quand même vous féliciter parce que depuis la mi-saison, les questions sont plus difficiles, on sent plus de recherches, on sent des questions plus personnelles, voilà, moins stat F1.
Et si tu vous trouvais pas sur la Corée, bah trouvez une question.
Voilà, peu importe.
Tiens, tu sais quoi, on va choisir un autre pays. Choisissons un autre pays, voilà.
Un pays pourri.
S'ils ne le trouvent pas sur la Corée, on va quand même leur imposer un autre pays.
Voilà. Alors, pour que ça accroche à la Corée
ou un autre pays. Alors, j'ai choisi la question, je te propose de choisir là un pays. Alors quand même un pays où il y a eu du sport auto, mais il y a eu beaucoup de pays qui ont eu du sport auto, donc oui. Tu as du choix.
Eh ben, j'ai envie de vous donner comme pays un pays qui a accueilli la F1, et ce pays c'est le Maroc. Donc attention, vous devrez proposer une question soit sur la Corée, mais vu que la Corée débute son histoire en Formule 1, soit sur un autre pays de Formule 1, à savoir, et c'est obligatoire, le Maroc. Donc soit la Corée, soit le Maroc. À vous de voir.
Mais à vous de voir. Va falloir être très 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 stratégique.
Oui. Donc voilà, c'était tout pour la question voilà. Proposition.
Alors,
parce que Shinji vous a bien mis dans la merde.
Je vous rappelle qu'ils ont le choix.
Shinji, hein.
Pour une fois qu'ils ont le choix.
À un moment donné, j'ai pensé vous donner la France, parce que vous n'avez pas eu le Grand Prix. Puis là, je me suis dit, non, trop fastoche.
Trop facile. Donc, on va partir dans 10 jours. Et on va y aller. En
oui,
Corée.
Yes. Sur
le Korean International Circuit.
Yes. À Yeongam.
À Yeongam. Alors. Des
et entre
pronoms.
Monogame et polygame. Je vais la faire.
Alors. Moi, j'ai envie de dire Weber. Je pense que les Red Bull seront bien. Et je me dis, allez. Ouais, Weber.
Pour foutre un peu la merde, qu'est-ce que je pourrais faire pour foutre un peu la merde? Allez, je vais être chauvin, je vais dire Alonso. Mais vraiment par pur chauvinisme en fait. Hein. Je pense que les McLaren ne devraient pas être trop mal, mais je pense que ça se jouera quand même entre la Ferrari d'Alonso et les deux Red Bull.
Oui, bon, c'est pas
et selon les prédictions de l'application Formule 1 dans la démonstration du Grand Prix de Corée, ce sera Massa qui gagnera.
Ce sera Massa.
Devant Rosberg et Sutil, je crois. Donc, profitez-en. Soyez heureux.
Alors, comme d'habitude, on remercie tous nos partenaires.
Dans DF1.info, toutF1.com. Le Tour Mécatech, n'en parlons pas. Aussi, EnzoF1.com, bien évidemment. C'est tout.
Voilà.
Et la boutique Amazon.
Et la boutique. Très important de la boutique.
D'ailleurs, on remercie ceux qui ont déjà fait des commandes.
Avant de se quitter, juste un tout petit mot, hein, quand même, pour féliciter notre septuple champion du monde des rallyes.
Oh, mais non, c'est le SAV. On a dit qu'on faisait le SAV du rallye demain soir. Ça t'est une
sorte de un coucou à Sébastien Loeb et à son copilote Daniel Elena, qui est aussi septuple champion du monde. Faut pas l'oublier.
Oui, voilà. Faut
non plus.
Penser. D'ailleurs, Sébastien, si tu nous écoutes, hein, on fait un coucou. Si vous remarquez que Shinji, il est super bon avec Sébastien Loeb, il lui fait des coucou.
Voilà, coucou. 7 titres, c'est quand même l'égal de Schumacher.
Oui, avec ce grand débat. Est-ce que c'est mieux que Prost?
C'est pas pareil. Moi, je...
C'est la réponse qui permet d'éviter le débat. C'est pas pareil.
Non.
Si t'étais obligé de trancher, tu dirais quoi? C'est mieux que Prost ou pas?
Je dirais Prost, dans le sens où il avait quand même une opposition beaucoup plus importante.
Voilà, pour la même raison qu'on met un Senna et un Schumacher et un Prost à égalité dans le palmarès historique, même si Schumacher est le plus titré, même si c'est pas porté ombrage aux adversaires de Loeb, mais
à part Grenholm,
il a vite évincé Sainz, il a vite évincé Colin McRae,
Solberg aussi. Oui. Et par contre l'an prochain, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, l'ennemi vient de l'intérieur, j'ai envie de dire, en plus.
Ça sentait d'ailleurs sa dernière saison, il l'a dit,
Il l'a dit, alors, il le dit aussi, hein, il n'a pas encore décidé.
Non,
ça
voilà.
Serait, je trouve, c'est vrai que s'il devait partir l'an prochain, ça serait un très bon moment pour s'arrêter. D'abord parce que, il est tout à fait possible parce qu'il va être le favori qui part sur un 8e titre, ce qui serait définitivement un record, alors, pour des titres FIA, hein.
Oui.
Sachant que, oui, en NASCAR, je crois que le record, c'est 7 aussi. Donc déjà, il peut tout à fait partir sur un 8e titre, ce qui serait énorme. Deuxièmement, même s'il ne gagne pas le titre, ce qui est envisageable. C'est vrai, c'est rare avec Sébastien Loeb.
Il aura l'excuse de la nouvelle réglementation.
Alors, voilà, il aura l'excuse de la nouvelle réglementation. On peut penser que même s'il ne gagne pas le titre, il en sera pas très loin. Il va pas devenir lent du jour au lendemain, Sébastien Loeb. En plus de ça, par rapport à l'équipe, il va pas les lâcher. C'est vrai que si par exemple il les lâchait là, il les lâcherait avec une nouvelle voiture.
Oui.
Là, il va quand même faire bénéficier au moins d'un an.
Je pense que là, on peut aussi faire la comparaison. Il y a beaucoup de comparaisons à faire avec Schumacher, mais je pense que là aussi, on peut la faire. De la même manière que Schumacher rend à Mercedes ce qu'il a obtenu au début de sa carrière, là, je pense que l'intention aussi de Sébastien Loeb derrière, c'est de rendre un peu à Citroën tout ce qu'ils lui ont donné en les aidant à mettre au point la DS3 pour les années à venir et pour Ogier donc et Sordo ou Kimi Räikkönen, qui sait.
Et c'est ça aussi, c'est que il sait aujourd'hui qu'il peut partir, il y a quelqu'un derrière lui.
Ouais.
Ça aussi, c'est une vraie satisfaction, je pense. Ouais,
pour lui. Peut-être devant lui l'année prochaine.
Et voilà, le problème, c'est que ça va aussi être son plus gros souci l'an prochain.
En plus, les trucs, c'est qu'ils sont très complémentaires. Loeb est imbattable sur asphalte, tandis que Ogier est quand même très très forte sur tout ce qui est terre, donc ça sera un duel l'année prochaine qui sera très intéressant parce que Ogier a vraiment l'air très fort sur terre.
C'est vrai qu'avec les nouvelles voitures, ça va peut-être redistribuer. Ils sont très sympas. Hein. Moi j'ai vu, il y avait les trois au salon de l'auto d'ailleurs.
Alors, j'ai raté la Mini. Je suis même pas passé par le stand Mini. Mais j'ai une petite préférence quand même pour la Ford Fiesta.
La Ford Fiesta, elle est très sympa, même si je trouve, alors c'est peut-être par rapport aux couleurs. Hein, de...
Oui, les... non mais les couleurs sont aussi. Hein.
Parce que tu sais, le passage d'euro est très prononcé, parce qu'en fait, c'est des kits.
Ouais.
Et je le trouve plus prononcé, en fait, sur la Fiesta que sur la DS3. Mais c'est peut-être juste une impression au niveau des couleurs. La Mini, je l'ai vue, elle est très sympa, en plus, sur la version exposée au salon. Ils ont fait vraiment la Mini avec la rangée de phares.
Monte Carlo. Ce qui, justement, voilà. a fait dire à Jean Todt que lui, il aimerait voir à l'avenir... il dit que le WRC se trouve à une intersection entre deux destins, soit revenir aux origines avec un calendrier plus petit mais des épreuves plus longues et plus exigeantes avec des spéciales de nuit, avec des rallyes qui commenceraient le jeudi, qui termineraient le dimanche.
Il faut que le rallye ça soit de l'aventure.
Ça soit de l'aventure, de l'endurance. Ou alors, bah effectivement, le WRC peut décider de se F1-iser d'une certaine manière. En faisant un calendrier à 18 manches, avec chaque épreuve qui se tiendrait sur deux jours, dont un jour plus un jour de repérage. Ouais. Voilà, comme ce qui a été fait en Finlande cette année. Voilà, c'est un choix qui doit être fait.
Mais très très sympa les nouvelles voitures pour l'an prochain. Oui. Puis c'est vrai qu'elles font une petite bombe. Ça rappelle un peu la 206. Je me souviens que quand elle est sortie, elle était très compacte par rapport à.
Bah l'objectif c'est vraiment de ramener un petit peu de ramener le WRC au niveau de l'IRC qui est aujourd'hui son principal rival et de démocratiser un peu plus. C'est quand même ce qui gangrène grandement le WRC depuis pas loin de 10 ans. Hein. C'est un monopole de quelques constructeurs depuis le départ de Subaru, depuis le départ de Peugeot, depuis le départ
de Mitsubishi.
Bah, il reste Citroën
et Ford.
Voilà, l'année prochaine, on sait qu'il y aura Mini qui commencera. Donc, il y a pas mal de noms qui circulent. Il y a Suzuki qui pourrait revenir parce que voilà, c'est plus accessible. Encore une fois, on parlait un peu plus tôt dans l'émission des moteurs turbo et le fait qu'en 87-88 commençaient à revenir des petites équipes. Qu'on encourageait ce genre de choses avec le trophée Jim Clark et Colin Chapman, justement, c'est l'objectif de cette nouvelle réglementation.
Donc voilà, c'était une petite pensée pour le rallye. On espère une carrière encore longue.
S'il y a des fans de WRC qui souhaitent faire un SAV de WRC, qui n'hésitent pas à nous contacter, on les aidera à mettre en place ce genre de choses et ils peuvent très bien faire. D'ailleurs, vous tous, si vous avez un sport dont vous êtes fan et que vous souhaitez faire un podcast comme nous sur votre sport, en parallèle, on peut très bien imaginer l'idée de faire une série de podcasts, un sur la F1, un sur le foot, un sur le foot non quand même.
Il y a déjà plein des trucs sur le foot. Voilà, c'était tout pour cette émission. Et attention, cette semaine, ça n'est pas sur une citation. Ce n'est pas sur un proverbe que nous avons
invité. On est au Japon.
Nous sommes au pays du soleil levant. Nous sommes au Japon. Et le Japon, vous le savez, ce sont les poèmes. Ce sont les haïkus.
Coucou.
Alors nous vous souhaitons...
Elle est parfaite.
Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, une bonne course, bien évidemment. Et nous vous laissons sur ces quelques mots.
Au soleil levant, les califes sautent, un plouf dans l'eau.